Bon, ça y est. Bon, monsieur, je vais commencer par vous demander, s'il vous plaît, votre nom et votre date et lieu de naissance.
Alors, de fer,
Oui.
Daniel,
Oui.
19 1937.
37. Et où est-ce que vous êtes né?
À Avallon, en
Oui.
Bourgogne.
En Bourgogne. Très bien. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille d'origine, à la fois sociale, politique, religieuse, tout ça?
Mes parents étaient artisans.
Oui. Quel genre d'artisan?
Coiffeur, parfumeur.
Oui.
Ça a joué dans mes engagements.
Comment ça joue dans vos engagements?
En ce sens que je ne me serais jamais établi ouvrier,
Oui.
dans la mesure où ils avaient fait tellement d'efforts pour que leurs enfants ne soient pas ouvriers.
Ah ben d'accord. Donc vous êtes revenu en arrière après 68.
Non, mais non, je ne me suis jamais établi ouvrier.
Ah bon?
Non, je n'aurais
Jamais.
jamais
Jamais.
voulu. Je
D'accord.
n'aurais jamais voulu, étant donné que toute leur vie, ça a été.
C'était la réussite sociale ou intellectuelle.
Oui, il la souhaitait, la réussite intellectuelle, la réussite sociale. Donc, il n'était pas question de revenir en arrière vis-à-vis d'eux.
D'accord. Et donc il travaillait dans la même
Dans la
boîte
même entreprise,
familiale.
c'était leur entreprise, oui.
D'accord. Et politiquement, ils étaient comment?
Ils ont évolué avec leurs enfants. Oh, ils étaient, je dirais, probablement conservateurs,
Oui.
mais ils ont évolué avec leurs enfants.
C'est-à-dire
Ils se,
doucement vers la gauche?
oui, après, mais longtemps après 68. Pas,
D'accord.
68 a été très douloureux pour eux.
En quel sens?
En ce sens que ils s'étaient imposés. Donc, je veux dire, ma mère m'avait dit une chose qui m'a beaucoup bouleversé en 68. Elle m'a dit si ils avaient été très choqués par je sais plus comment c'était, réaliser vos désirs. Je sais plus qui.
Prenez vos désirs pour les réalités,
Peut-être, prenez vos
quelque chose
désirs
comme
pour la
ça.
réalité.
Oui.
Et ma mère a été extrêmement choquée, parce qu'il s'était certainement imposé énormément de contraintes.
Oui.
Et ils estimaient que justement le fait d'avoir contrôlé tous leurs désirs
Oui.
était à l'origine de notre statut social. Et s'ils avaient vécu tels qu'ils étaient, mes parents étaient orphelins d'origine, et s'ils avaient vécu selon leur origine, selon leur milieu, ils auraient été ouvriers et nous serions ouvriers.
D'accord.
Et ma mère m'a dit, vous seriez communiste.
D'accord.
Et si vous êtes gauchiste, c'est à cause de tous les sacrifices que nous avons faits.
D'accord.
Et
D'accord.
ça a beaucoup pesé pour moi.
D'accord, je comprends. Oui.
Donc voilà, ils étaient catholiques. Mon père était d'origine, bon, ça c'est propre à la Bourgogne, janséniste.
Il était comme vous dites, il était.
Sa mère était janséniste. Sa famille était janséniste. Lui, il était bon, radical, comme la plupart des ex-jansénistes sont devenus radicaux aussi bien. Mais il n'y avait que les pays de vignerons qui étaient jansénistes, la Bourgogne et le
Parce que
Bordelais.
quand j'essaie d'interpréter jansénisme pour l'Angleterre, j'ai l'habitude de dire que c'est un puritanisme catholique. C'est
Oui,
exact?
c'est ça, c'est ça.
Oui.
Très austère.
Très austère.
Et ma mère était d'origine juive, mais elle n'avait pas été élevée dans le judaïsme, elle était abandonnée et elle s'est convertie au catholicisme, un catholicisme à la Graham Greene. C'était absolument, quand j'ai lu Graham Greene, j'ai trouvé toutes les réactions de ma mère.
Oui, d'accord.
Un catholicisme tardif, mal intégré.
Quand vous dites qu'elle était d'origine juive, ses parents à elle venaient de. C'était des juifs français ou des juifs étrangers?
Ukraine.
Ukraine.
Non,
Qui sont venus en France
non. À cause des pogroms.
à cause des pogroms, oui, d'accord. Et Quand vous dites que vos parents étaient tous les deux orphelins,
Oui.
orphelins, comment ça, qu'à partir de très jeune âge ou
Non, ma mère, à la naissance, pratiquement, elle est abandonnée tout de suite.
Oh,
Et mon
d'accord.
père a été orphelin, enfant, oui, très jeune. Son père est mort, il était très jeune. Il a eu sa mère toute sa vie, mais il était.
Et vous avez eu des frères et des
Oui,
sœurs?
nous sommes quatre.
Quatre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu vos études?
Oui, bon, j'ai fait. Bon, je suis agrégé de philo. J'ai fait normal à Saint-Cloud.
Mais avant, vous avez fait le lycée de quel lycée?
Le collège d'Avallon, qui était. Enfin, le collège à l'époque, c'était. Le collège, c'était un lycée, mais ça s'appelait collège parce que c'était une petite ville. Je ne sais pas très bien d'ailleurs. À l'époque, le collège n'était pas premier cycle. Aujourd'hui, en France, collège égale premier cycle. Mais
Oui.
à l'époque, c'était premier, second cycle.
Jusqu'à la terminale.
Oui, j'étais à la terminale et ensuite j'étais au lycée du Parc à Lyon, qui était une grande préparation. Enfin, il était en province l'une des plus importantes préparations pour les grandes écoles, quoi. Je préparais une, je me suis fait coller à l'oral d'Ulm
Oui.
deux fois.
Deux fois. Comment vous expliquez ça?
Le latin,
Le latin.
j'avais abandonné un moment mes études pour des raisons familiales, mon père était tuberculeux, tout ça. J'étais obligé d'arrêter mes études et quand je les ai repris, ça a été un peu difficile.
D'accord. Donc vous êtes allé à Saint-Cloud.
Oui, parce que j'étais collé à
Mais
Ulm.
Saint-Cloud, c'est pas mal comme accueil normal, non? Quelle est la
Oui,
différence entre
la
Saint-Cloud
différence était historique. La différence, aujourd'hui, la différence est assez minimisée parce que les carrières sont les mêmes. Mais à l'origine, Saint-Cloud avait été fait pour les écoles normales d'instituteurs,
Oui.
c'est-à-dire les gens d'origine plus modeste qui avaient fait des études modernes. On n'avait pas de latin et de grec au
Oui.
concours. On
Oui.
avait, c'était un recrutement différent. Puis progressivement, c'est devenu comme pour toutes les grandes écoles, ceux qui étaient collés à Ulm entraient, se présentaient à Cloud, quoi.
Parce qu'à Saint-Cloud, il n'y avait pas de latin ni de
Il n'y avait
grec,
pas de
c'est
latin et de
ça?
grec, c'est ça.
C'est un peu l'histoire de Jean Guéhenno, changer la vie, vous connaissez?
Alors oui, j'ai même rencontré Jean Guéhenno sur l'Acropole. Nous
Oui.
avons lu ensemble la lettre sur l'Acropole. Oui, mais Jean Guéhenno, il a fait Ulm.
Oui,
Oui.
mais je crois qu'il a eu du mal à y rentrer,
Oui, puis
non?
il avait des relations à ses parents qui m'avaient beaucoup ému dans un livre qu'il avait raconté. On a parlé de tout ça sur la campagne
Oh,
avec
c'est
Jean
formidable. Oui,
Guéhenno.
oui.
Oui.
Et c'est quand vous êtes quand vous étiez à Saint-Cloud que vous avez fait la connaissance de Foucault?
Oui, la première semaine où je suis arrivé à Paris en 60, je suis arrivé à Paris en 60. Il se trouve que j'avais un de mes professeurs de la fac de Lyon qui était un ami de Foucault, qui était anormal avec Foucault, et qui voulait que je me représente encore au concours d'Ulm, et qui, pour me convaincre, m'a invité à rencontrer Foucault. Et alors, quand je suis entré à Saint-Cloud, j'avais un de mes camarades qui était entré un an avant moi, qui a fait une grande carrière diplomatique depuis, et qui était entré un an avant moi, et quand il m'a revu, il a trouvé que j'affichais trop mon homosexualité. Et il m'a conseillé d'avoir une vie politique comme thérapeutique, et il m'a conseillé de me présenter aux élections de représentants des élèves de l'école normale.
Oui.
Je vous dis ça parce que ça fait partie de l'histoire politique.
D'accord.
Nous étions dans les écoles normales élèves-maîtres.
Oui.
C'est-à-dire que nous étions à la fois représentés dans les syndicats d'enseignants et dans les syndicats d'étudiants.
D'accord.
J'avais jamais été militant, j'avais juste une fois fait le service d'ordre pour Mendès France à Lyon pendant la guerre d'Algérie. Bon, j'étais contre la guerre d'Algérie, mais je m'étais pas impliqué. D'abord, j'étais interne à Lyon. Et puis à Saint-Cloud, donc, je me suis présenté comme candidat pour représenter les élèves et j'ai été élu comme représentant à l'UNEF
D'accord.
en 60.
D'accord.
J'arrivais juste à Saint-Cloud, la première semaine où j'arrivais à Saint-Cloud, je rencontre Foucault et je suis élu à l'UNAF, alors que j'aurais pu être élu au syndicat des profs, le SNES, tu t'es connard.
Oui.
Et j'ai eu la chance, par hasard, d'être élu à l'UNAF. Et c'était la guerre d'Algérie, et l'UNEF était le principal mouvement social contre la guerre d'Algérie.
Oui, d'accord.
Donc je me suis trouvé politisé par cette élection à l'UNEF.
Donc l'élection a précédé la politisation.
Tout à fait. J'ai été élu parce qu'il fallait un candidat, il fallait quelqu'un qui représente les
oui.
élèves. Et l'école de Saint-Cloud était une école traditionnellement considérée comme communiste.
Oui.
Je vous dis ça parce que pour moi, mai 68 est profondément un mouvement anticommuniste.
Oui, tout à fait.
Ce que je ne ressens pas toujours dans les récits qu'on fait de mai 68.
Et politiquement, vous êtes présenté de quelle tendance pour être élu? Il fallait une couleur?
Non, il fallait quelqu'un. Bon, je me suis présenté, j'étais une bonne patte, je crois que je serais devenu communiste. S'il l'avait fallu, mais donc je me suis présenté, j'ai été élu à l'UNEF, et les premières tâches que nous avons eu à faire, c'était préparer la manifestation du 27 octobre 60,
oui.
qui est la première grande manifestation contre la guerre d'Algérie.
D'accord.
Donc je me suis engagé dans la préparation de cette manifestation, et au tout dernier moment, peut-être deux jours avant la manifestation, mes camarades communistes de l'école, que j'étais censé représenter, puisque bon, je représentais l'école, je connaissais pas si les gens étaient communistes, PSU, globalement, enfin bon, tout le monde était plutôt de gauche, motivé, oui. un dominant communiste.
Oui.
Et ils m'ont dit au dernier moment, la manifestation est déplacée, au lieu d'aller dans le quartier latin, nous allons aux usines.
Ah bon?
Vous voyez, c'est près mai 68, mais c'est en 60, ça.
Oui.
Nous allons aux usines.
Quelles usines?
Alors, les usines où il y a des ouvriers CGT et qui vont nous accueillir.
Oui.
Et ils nous ont dit, on va aux usines. Parce que, tu comprends, c'est bien gentil de manifester dans le quartier latin, mais c'est quand même un quartier acquis, alors que dans les usines, ce qui était vrai, les gens sont beaucoup plus nationalistes,
oui.
c'est plus difficile de convaincre les ouvriers, tout ça, il faut aller aux usines. Or moi, je voulais entrer dans un réseau de soutien au FLN, notamment faire des cours, dans le bidonville de Nanterre, enfin faire des cours aux gens, aux Algériens,
oui.
Et j'avais un rendez-vous à la mutualité, le lieu de la manifestation de l'UNEF, le 27 octobre, et j'avais un rendez-vous à la mutualité pour rencontrer la personne qui allait m'introduire dans ce réseau.
D'accord.
Et je dis, je peux pas, moi, puis je comprends pas, je suis délégué de l'UNEF, pourquoi c'est pas moi qui ai été informé, pourquoi c'est mes camarades qui m'informent qu'on a changé d'objectif.
Oui, oui.
Donc je trouve pas ça correct, et dans la mesure où mon organisation ne m'a pas donné un contrôle, je vais à mon rendez-vous à la mutualité où il y avait foule,
oui.
et je vois arriver mes camarades qui me disent, oui, au dernier moment, il y a eu contre-ordre. Et à ce moment-là, je comprends la stratégie des communistes, qui avait voulu saboter la manifestation de l'UNEF en nous envoyant aux usines.
D'accord.
D'où ma très grande résistance à aller aux usines en 68.
D'accord, encore une raison.
Donc, si vous voulez, je vous racontais ça parce que ça a été ma formation politique, la lutte contre la guerre d'Algérie et la méfiance à l'égard du Parti communiste d'emblée.
D'accord.
Avec cette manifestation manipulation.
Oui.
À chaque fois qu'on organisait une manifestation contre la guerre d'Algérie, on nous proposait de manifester pour Cuba.
Donc vous avez manifesté pour Cuba. Non, c'est les communistes qui voulaient manifester pour Cuba.
À chaque fois qu'il fallait manifester pour Cuba.
Contre Cuba ne vous a intéressé, ne vous a pas intéressé.
Non, j'ai failli partir à Cuba avec Régis Debray, j'y ai pas été.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas parti parce que...
Parce que j'avais pas assez d'argent, je suis parti aux États-Unis en 61 en charter, et il y avait Régis Debray et un de ses copains que je connaissais bien qui partaient par cette même occasion pour rejoindre Cuba, Et moi, je me suis contenté de tourisme aux États-Unis.
Oui, parce que ça finit difficilement pour le vrai.
Oui, oui.
D'accord. On a évoqué Foucault, mais j'ai pas tout à fait compris comment vous l'avez rencontré. C'était en 60?
La première semaine où j'étais à Paris, donc cet ami Robert Mozzi, qui était professeur à Lyon, qui était mon prof à la fac de Lyon,
oui,
mon prof de littérature, qui m'a dit, je vais te faire rencontrer un de mes collègues qui arrive, il rentrait d'Allemagne. Foucault,
oui,
venait juste de revenir en France, donc il connaissait peu de gens à Paris, et il m'a fait rencontrer Foucault, donc en septembre 60.
D'accord.
Donc, ça intéressait Foucault que je sois motivé contre la guerre d'Algérie, mais lui, c'est vrai que il n'était pas mobilisé à ce moment-là, il ne le sollicitait pas non plus, il n'était pas connu, les gens n'avaient aucune raison de le mobiliser, et en plus, c'est vrai qu'il avait assez confiance dans les intentions de De Gaulle, parce qu'il avait été très proche du proche entourage de De Gaulle pendant sa période de Pologne.
Ah bon, ça je ne savais pas.
Oui, non, parce qu'en Pologne, De Gaulle a été en Pologne dans les années 28-29, je crois, il a été conseiller militaire en Pologne,
oui.
De Gaulle. Et il a eu toujours une politique à l'Est.
Oui.
Et dès qu'il est arrivé au pouvoir en 58, il a placé en Pologne des gens à lui, des gens très proches de lui.
D'accord.
Et beaucoup d'ailleurs de ceux, ça c'est peu connu, ça c'est Foucault qui me l'a raconté, mais c'est des gens qui ont préparé le coup d'État de 58. Et on les a mis à distance pour qu'ils parlent pas, parce qu'on était tranquilles en Pologne, ils n'avaient pas d'interview, pas de journaliste, tout ça. Donc il y a eu un entourage de proches de Gaulle, des gens qui connaissaient très bien comment s'était préparé 68,
ouais, d'accord,
qui ont été placés à l'ambassade de France en Pologne, et Foucault était en Pologne pour réouvrir l'Institut français.
Ouais, d'accord.
Et il s'est trouvé le collaborateur d'Étienne Burin-Desrosiers,
oui,
qui était à Londres avec De Gaulle en 40, et qui est fini secrétaire général de l'Élysée.
D'accord.
Donc un très proche de De Gaulle. Donc Foucault n'avait pas de raison de croire que De Gaulle serait fasciste, qui était un peu l'idée que la gauche avait en 60, qu'il fallait manifester contre un pouvoir fasciste.
D'accord, je comprends. Donc c'est la guerre d'Algérie qui a fait votre apprentissage politique,
oui, tout à fait, tout,
oui,
à fait.
Oui. Et vous avez milité avec, à part l'UNEF, vous avez milité avec d'autres gens à l'époque.
Ben, c'est-à-dire, l'UNEF était quand même un rendez-vous, un point de rencontre des principaux mouvements anticolonialistes.
Oui.
Bon, il y avait un comité anticolonialiste, qui était un petit comité qui réunissait des gens d'Afrique et d'Afrique du Nord.
Oui.
Ça a été surtout le comité anticolonialiste, qui était un comité international. Et puis, au sein de l'UNEF, alors j'ai connu une fille qui a été importante pour moi, qui était la déléguée de Sèvres.
Oui.
Et elle est devenue la femme d'Alain Gessmard. Mais à l'époque, elle n'était pas mariée encore.
La première femme ou la deuxième femme?
La première.
Oui.
La première, Edith Gessmard.
Oui.
Edith Esten. Et qui est devenue vraiment une de mes très proches amies.
Oui, d'accord.
Et qui m'a pas mal dribblé politiquement. C'est vrai que, bon, autrement, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour quelqu'un qui venait de la petite bourgeoisie, le Parti communiste, c'était vraiment l'incarnation de la gauche, c'était vraiment le grand écart,
oui.
Quand on passait à gauche, on passait forcément par le Parti communiste, c'était un peu comme une rupture, presque une rupture familiale, une rupture,
oui.
D'une certaine manière, elle était militante au PSU, et j'ai pas franchi le pas du PSU, parce que je trouvais que c'était un milieu trop proche de ce que je vivais. C'était un milieu trop intellectuel, trop de profs, pas assez d'ouvriers.
Pas comme vous, alors.
Justement, c'était un milieu, c'était mon milieu, donc je voyais pas l'intérêt pour moi d'entrer dans un parti politique pour fréquenter les gens que je fréquentais normalement, quoi.
D'accord.
Je trouvais qu'un parti devait brasser davantage de gens.
Ouais.
Donc je suis pas entré au PSU, mais idéologiquement, si vous voulez, ma formation s'est faite avec le PSU.
Comment s'écrit son nom, la femme de Jesma? Edith.
Reddit. En fait, c'est René Edith. Alors, c'est R. Edith. Mais elle la faisait prononcer en un seul mot. Tout le monde la connaît sous le nom de Reddit.
D'accord.
Mais c'était René Edith.
Et elle avait épousé Jesma.
Elle a épousé Jesma, qui était, bon, un peu après, il a été très actif dans la guerre d'Algérie, Jesma. Oui. Donc elle l'a épousé, moi je l'ai connu en 61-62, elle l'a dû épouser après, en 63-64, je sais pas.
D'accord.
Mais j'étais très lié à elle. Bon, j'ai pris son, quand Alain était en prison, je prenais son fils en vacances dans ma maison à la campagne. Maintenant, elle a acheté une maison à la campagne, pas loin de chez moi.
Ouais, d'accord.
On est restés amis.
Donc, elle vous a aidé politiquement.
Elle m'a.
Vous avez été
dribblé.
Comme un
dribblé. Je croyais que c'était pour l'entraînement des chevaux.
Ah oui, d'accord.
Oui, non, elle m'a entraîné, elle m'avait formé, quoi.
Oui.
Parce que la plupart des thèses de l'UNEF étaient des thèses de proches du PSU, quoi. Et c'est vrai que Rocard est devenu un peu notre référent.
D'accord. Et donc vous avez quitté Saint-Cloud à quel moment avec l'agrégation?
En 64.
64. Et puis, en ce qui concerne votre carrière, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, 64, j'avais le service militaire.
Ah, le service militaire. Et c'était le service militaire ou la coopération?
Ben, c'est ça. J'avais été proche des gens qui ont instauré la coopération.
Oui.
C'était un de mes copains, Pierre Laville, qui est maintenant directeur de théâtre, qui avait été un des premiers à travailler sur les projets de coopération.
Parce que c'était nouveau à l'époque.
Oui, ça s'est mis en place à cause de la guerre d'Algérie.
Ah,
oui,
d'accord.
Parce qu'on voyait plus très bien quoi faire des intellectuels dans l'armée, comme ils étaient les opposants. Et donc, ça a été une manière de se débarrasser des intellectuels.
Oui.
Donc, on était des militaires, on avait un contrat militaire, mais avec de l'action civile. Donc, ça a été initié, moi je pense en 63, par là, tout de suite après la guerre d'Algérie.
Oui, oui.
C'est en même temps que les pieds rouges, je crois. C'est vraiment une des politiques d'après la guerre d'Algérie. Donc moi, je suis parti en 64.
Oui.
En Tunisie.
En Tunisie. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
Moi, j'étais prof.
Oui.
J'étais pas militant parce que, bon, la guerre d'Algérie était finie, la Tunisie était indépendante, on n'avait pas... Bon, à ce moment-là, les Tunisiens n'étaient pas très motivés politiquement, en tout cas, c'est après. Quand Foucault est venu ensuite en Tunisie,
oui.
Et alors là, en 67, la Tunisie a commencé sous la pression américaine, parce que la présence américaine commençait... si vous voulez, les Américains ont inauguré le Peace Corps. À peu près en même temps que moi j'étais en Tunisie. Et alors on s'est trouvé, il y avait une confrontation entre la politique de coopération française et la politique de coopération américaine.
D'accord.
Peut-être que ça a commencé un an avant. Parce que il me semble que c'est Kennedy qui avait initié le Peace Corps. Il me semble que c'est Kennedy. Mais ça n'est devenu effectif que c'était déjà plus Kennedy.
Bon, les gens au Peace Corps, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ben, ils faisaient de la coopération.
Comme vous?
Comme nous. Ils étaient les profs au lycée étaient américains ou français en dehors des. Et naturellement, ils étaient. Aussi, ils ne faisaient pas de politique. La seule chose, c'est qu'ils rappelaient, en général, ils parlaient de Marx, et puis après, ils insistaient beaucoup sur le fait qu'il était juif. Et alors, après, les élèves revenaient en me disant, madame, monsieur, il était juif, alors quel rapport avec l'entité sioniste d'occupation?
D'accord.
Voilà. Donc, le Peace Corps avait quand même un rôle idéologique. Alors, bon. On avait un petit travail comme ça de contre-idéologie, mais enfin pas un vrai travail politique.
Mais politiquement, on vous dit que la Tunisie était calme à l'époque.
Oui, oui, c'est en 67. Alors, moi j'étais à Sfax, qui était le sud de la Tunisie, qui était assez nassérienne.
Oui.
Le sud de la Tunisie était assez nassérien. Je me suis trouvé un peu lié aux événements là-bas, indirectement.
Mais parce que les Tunisiens commençaient à se révolter, mais contre qui ou quoi?
Non, ils ont commencé à se révolter en 66, en 66-67. Alors, en 66, il y avait une action assez importante du parti Baas, des Irakiens,
oui,
qui commençaient à recruter des nationalistes d'idéologie bassiste.
D'accord.
Et le gouvernement tunisien a commencé à arrêter les bassistes en 66.
D'accord.
Et la présence américaine est devenue de plus en plus forte. Parce que moi, en 64-65, il y avait des coopérants américains, mais en 67, il y avait des visites du vice-président des États-Unis, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, c'était le président, ça devait être Johnson, et comment il s'appelait le vice-président?
Humphrey,
je crois bien, oui. Qui est venu visiter...
Je peux poser, si vous voulez.
Bon, on va laisser.
Oui, d'accord.
Il y avait une présence. Alors je ne sais plus quelle a été exactement la nature de la coopération. Je ne pense pas qu'il y avait une coopération militaire. Est-ce qu'il y avait
les Américains étaient derrière le régime.
Oui. Oui. Très visiblement, quoi.
D'accord.
Très visiblement. Et alors il se trouve. Bon, enfin ça, c'est anecdotique. Moi, en 65. En février, j'ai des documents ici pour le prouver.
Oui,
j'ai des photos.
Je vous crois.
J'ai des photos avec Bourguiba.
Oui.
Il se trouve que la Tunisie était un pays calme, mais très policier, très policier. On avait dans chaque classe un délégué qui était chargé de nous fliquer.
D'accord.
Il se trouve qu'il était très très beau le délégué. J'étais très amoureux de lui. Et je pense qu'il était assez gentil avec moi. Et il se trouve que Bourguiba a commencé une tournée au Moyen-Orient.
Oui.
Il est allé en Égypte.
Oui.
Où il a quitté l'Égypte en déclarant, en rendant public le fait qu'il y avait des négociations entre l'Égypte et Israël.
Oui.
Ce qui a fait énormément de bruit. L'Égypte a démenti et Bourguiba a continué son voyage d'Égypte en Iran.
Oui.
Et il a commencé donc à quitter le panarabisme pour le panislamisme.
D'accord.
Et c'est en 65.
D'accord.
Et il est allé dans d'autres pays musulmans, mais en tout cas il est allé en Iran. Donc là vous voyez qu'il était très soutenu par les Américains.
Oui.
Et j'ai appris ensuite, parce que j'ai fait Sciences Po, une année. J'ai fait Sciences Po avant l'agrégation de philo, en 63. J'ai fait une année de Sciences Po. Et j'avais comme copain un type qui a été le secrétaire de Ben Gurion.
Oui.
Que j'ai revu après en Israël et qui m'a confirmé que c'était en accord avec les Américains que Bourguiba avait divulgué les rencontres secrètes. Que les Américains ne souhaitaient pas que Nasser devienne un leader de la paix.
Oui. Oui.
Et donc, vous voyez, la présence de l'Amérique était très, très réelle en Tunisie. Ça commençait. Et en 67, la guerre des six jours, au moment de la guerre des six jours, le gouvernement a commencé à arrêter les éléments bassistes,
oui,
et un peu tous ceux qui pouvaient faire des problèmes pendant la guerre des six jours.
D'accord.
Et le début de 68 en Tunisie, c'est 67.
D'accord. Donc il y avait une répression.
Il y a une répression très très forte, très très forte.
Quel était...
Alors, il y a une répression très forte, oui. Mais c'était des bassistes uniquement, oui. Qu'on a accusés d'être... alors, certains ont été accusés d'être sionistes, c'était un peu contradictoire. Il y a, bon, différentes choses, mais... et en 68, le mouvement a commencé en mars, je crois, en Tunisie, en grande partie à cause de la maltraitance à l'égard des prisonniers bassistes.
D'accord.
Donc c'est une histoire assez continue en Tunisie.
Qui c'est qui s'est... Vous voulez dire qu'il y a eu des échos en France de ce qui s'est passé en Tunisie?
Non. À cette époque, non, pas avant 68.
Non. D'accord. Alors si on peut revenir au 68 en France, comment ça s'est passé pour vous?
Oh, alors moi j'étais à ce moment-là ce qu'on appelait chercheur isolé au CNRS.
Oui.
Chercheur isolé, c'est-à-dire que, en fait, j'étais attaché de recherche au CNRS et à la Fondation Thiers.
Oui.
Donc, une institution très bourgeoise. On avait un domestique en gants blancs qui nous servait à table, dans une très belle maison, qui est maintenant un club très chic, Club Saint-James, qui était une maison construite sur le modèle du tombeau de Napoléon. Il y avait une coupole, Thiers était très admirateur forcément de Napoléon, et on avait fait donc un bâtiment qui honorait la mémoire de Thiers et de son histoire de Napoléon, et on était 15 personnes, 5 par année, pendant 3 ans, donc il y avait...
Donc ces 3 ans étaient lesquels
66. J'ai quitté en 68, j'ai fait 66, 67.
D'accord.
Et j'étais en 68.
D'accord.
Et alors, c'était curieux parce que dans cette institution, il y avait Jacques Rancière.
Oui.
Il y avait également quelqu'un qui s'appelait Michel Brudière, qui est décédé maintenant, qui était le collaborateur de Pompidou.
D'accord.
Parce que les cabinets ministériels font semblant de ne pas avoir trop de personnel, alors il y a des chercheurs scientifiques qui sont payés par le CNRS.
D'accord.
Mais qui travaillent en réalité, enfin ça se fait peut-être plus maintenant, enfin j'en sais rien, il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc il y avait quelqu'un qui travaillait chez Pompidou, le directeur de la Fondation Thiers était le doyen Davy.
Oui.
Ça vous dit peut-être rien.
Comment si, ça s'écrit?
D-A-V-Y.
Non.
Qui était le dernier survivant de l'école de Durkheim.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'était un vieux monsieur très, très conservateur.
Oui.
Mais qui en mai 68, je me suis retrouvé étant à l'UNEF un peu délégué, porte-parole des élèves, des pensionnaires de la Fondation Thiers.
Oui.
C'est un peu comme il y a la Villa Médicis, la Casa Velasquez, il y a comme ça, après l'agrégation, des institutions pour les chercheurs en résidence. Donc, la Fondation Thiers était une de ces institutions. Et il y avait donc Michel Bouguière qui était chez Pompidou.
Oui.
Moi qui étais à ce moment-là porte-parole de l'UNEF, et l'UNEF à ce moment-là était j'étais plus porte-parole de l'UNEF, je veux dire, j'étais prof, c'était fini, j'étais plus étudiant, mais je m'étais engagé, quoi.
Oui.
Et je sais plus, je suis devenu porte-parole des élèves, et il y en avait un qui était Dominique Tadi, qui était au PS. Donc je me suis retrouvé porte-parole et du coup le doyen Davy m'a convoqué dans son bureau pour me dire qu'il était moins réactionnaire qu'on ne le disait, parce que quand même avec Durkheim ils avaient fondé l'humanité. Il m'a raconté les années 20 avec Durkheim, Mauss et Alvats. C'était tout à fait intéressant.
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Mais donc en 68, j'étais chercheur isolé, ça veut dire que je travaillais tout seul en bibliothèque, je voyais personne, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de laboratoire, c'était fictif. Mon patron était Raymond Aron.
Oui.
Et j'avais pas d'équipe autour de moi. Et je suis allé chercher une de mes amies qui passait l'agrégation d'anglais. Ça devait être le lundi 3 mai, je crois. Elle passait l'agrégation à Sainte-Geneviève. Je sais plus, la première grande manifestation, si c'est le 3 ou le 4.
Le 3, je pense.
C'est le 3. Alors, j'ai fait la première grande manifestation. Pourtant, le 3, c'était un lundi ou un mardi ?
Un vendredi.
Un vendredi ? Un vendredi.
Je pense.
Mais oui, oui, je me rappelle.
Parce que la nuit des barricades, c'est le vendredi suivant. Oui. Le vendredi samedi suivant, c'est le 10.
Oui.
La grève générale, c'est lundi le 13.
Ben, j'ai fait la première manifestation qui... j'ai été blessé. J'ai fait la première manifestation qui est partie d'Enfer Rochereau.
Oui.
Et je crois que c'est la première grande manifestation. D'Enfer Rochereau, on est passé devant le Parlement.
Oui.
On n'a rien fait. Et on est allé, je crois bien, jusqu'aux Champs-Élysées, jusqu'au soldat inconnu, je crois bien.
D'accord.
Et puis après, on s'est perdu un peu. Et c'est là que je me suis retrouvé dans une première bagarre de flics. J'étais obligé de me cacher dans un café. Et qu'on est passé, enfin c'était épique, on est passé par les toits, j'ai été blessé, j'ai encore une cicatrice à la jambe, enfin une petite marque, c'était le premier jour, et j'ai été surpris par l'avion. Ah oui, alors donc le premier jour, je crois que c'était un lundi, pourtant je croyais que c'était un lundi, je ne sais plus, c'était le premier jour de l'agrégation, j'avais une de mes amies très proche, la première femme qui m'a dépucelé,
ah bon,
qui passait à l'agrégation, qui, je vais la chercher à la sortie de... Et je vois autour de la Sorbonne un déploiement de police comme je n'en avais jamais vu de ma vie.
Oui.
J'avais quand même beaucoup fait de manifestations pendant la guerre d'Algérie.
Oui, oui.
On n'avait jamais vu autant de police. Et là, j'ai été révolté par la force de la répression.
Oui.
On disait pas encore CRSSS, mais quand on l'a dit, j'étais convaincu.
Oui, oui.
C'était vraiment énorme. La quantité d'autocars noirs, de flics, à la fois moins athlétiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont l'air de GI, mais là, ils avaient l'air quand même encore du vieux flic. Lourd, mais avec des casques, des lunettes, un équipement lourd, archaïque.
Oui.
Ils faisaient à la fois pépère. Mais c'était effrayant.
Oui.
Parce que déjà, leur visage était caché, c'était inhumain.
Oui. Oui.
Et
oui.
Ça, c'était inacceptable. Le quartier latin soit bouclé de flics à ce point-là, je ne l'ai pas accepté. Et c'était vraiment ma motivation.
D'accord.
C'était insupportable.
Oui.
Et on ne pouvait pas accepter ça. Donc, première manifestation, j'y cours. Et le point de départ, je me rappelle, était à l'Enfer Rochereau. Et je crois que j'ai fait toute la manif ce jour-là. J'ai retrouvé tous mes copains. Et je les ai toutes faites à partir de cela.
Oui. Oui.
Et alors, le soir du... C'est assez drôle. Le soir de la nuit des barricades, à 9h du soir, j'étais rue Soufflot, et on a commencé autour de moi à arracher les pavés.
Oui.
Très tôt, hein, je pense 9h du soir.
Oui.
Je n'avais pas vu de barricade avant, je crois pas. Il y a eu quelques... Je crois à Montparnasse où je me suis fait blesser. Je crois qu'il y a eu un petit peu de voitures mises en travers, de petites choses. Mais enfin, il n'y a pas eu de barricade à ma connaissance avant. Par contre, ce soir-là, à 9h du soir, on a commencé à dépierrer.
Oui.
Et faire un tas de pierres. Et j'ai demandé, je me rappelle, il y avait René Scherrer.
Oui.
René Scherrer, qui est un philosophe assez connu en France, qui est le frère d'Éric Rohmer.
Ah oui, ça je ne savais pas.
Non, personne ne le sait. Parce qu'ils ne veulent pas. Enfin, Éric Rohmer ne veut pas qu'on le sache.
Mais ils n'ont pas le même nom.
Non, Éric Rohmer a le nom de leur mère. Il s'appelle Éric Scherrer.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est leur mère, Rohmer.
D'accord.
Mais il a pris un pseudonyme d'artiste. Et je me rappelle, il y a pas mal de gens qui ont été des figures après importantes de 68. Un garçon qui a été le premier à refuser, après mai 68, la visite de l'inspecteur général. Je ne sais plus son nom, un philosophe André, je ne sais plus son nom en tout cas. J'étais avec lui, puis je commence à dire à René Scherrer, mais c'est insensé, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pavés? On va quand même pas lui jeter sur la tête des flics. Il me dit, pourquoi pas? Et je dis, mais c'est insensé. Il me dit, si t'es contre, t'as qu'à t'asseoir dessus et empêcher qu'on vienne les chercher, qu'on les apporte, et je m'assieds sur le tas et j'empêche tout le monde de prendre un caillou. Et donc j'ai commencé la nuit des barricades assis sur le, sans doute le premier tas de pavés qui est autour de la fontaine de la rue Soufflot. Puis quand le tas est venu un peu trop haut, je suis parti parce que je me suis dit, ça, je ne vois pas, qu'est-ce qu'on va faire une barricade. Pour moi, c'était complètement de la folie.
D'accord.
Donc je ne comprenais pas. Non, ça, c'est amusant parce que, je vous raconte ça un peu en détail, parce que je suis resté peut-être jusqu'à minuit, 11 heures, par là. Il y avait quand même un gros tas de cailloux, il y avait pas mal de choses. Les gens commençaient à prendre des voitures. Et je rencontre Pierre Nora et François Furet.
Ah oui, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ils faisaient le tour du quartier.
Oui. Vous les connaissez déjà?
Oui, je les connaissais. J'avais été en Israël avec eux en 67 ou 66. Pendant la guerre des six jours. En 67, oui. Pendant la guerre des six jours, on a été. Eux, ils y allaient en tant que journalistes et on y a été pendant la guerre des six jours. Donc, on habitait en Israël ensemble, donc je les connaissais bien.
Oui.
Je connaissais depuis longtemps. Et Pierre Nora habitait boulevard Saint-Michel.
Oui.
Donc, il y avait le psychanalyste lacanien.
Miller?
Non. Le psychanalyste plutôt, pas lacanien, plutôt classique freudien. C'est pas important. Enfin, connu qu'un double nom. C'est un bouquin de vie par là.
Enfin, on peut chercher ça plus tard.
Oui, ça n'a pas d'importance. Il y avait ce psychanalyste, il y avait François Furet, Pierre Nora, Françoise Cachin, la femme de Pierre Nora, bon, qui se promenaient sur le boulevard. On monte chez eux, regarder les événements.
Oui.
Et, on regarde l'animation. Il y avait quand même, il y avait des manifestations tous les soirs. Déjà, il y avait les arbres avaient été coupés quelques jours auparavant. Enfin bon,
oui.
C'était déjà un peu dévasté le quartier latin. Et on regarde ça de la fenêtre. Et puis, vers 1h du matin, la bataille n'avait pas commencé parce que François Furet propose de rentrer. Il n'y avait pas de métro, plus. Et François propose de me ramener chez moi. Et on fait un petit tour, et je dis toujours, ça m'amuse parce que c'est François Furet, historien,
oui.
Et je pense à Fabrice à Waterloo. Parce que on fait une petite promenade et on ne voit rien.
D'accord.
Et il me dit, c'est bien calme, et il me ramène chez moi, boulevard de Grenelle.
C'était où?
C'était boulevard de Grenelle, dans le 15e. Donc il me ramène chez moi, tout était calme.
Oui.
Et peut-être 10 minutes après être arrivé chez moi, j'ouvre la radio pour savoir, et j'entends que c'était la nuit des barricades, et je pouvais plus retourner parce que c'était quand même un peu loin, tout ça.
Voilà,
j'étais un peu frustré, mais c'était drôle parce que on était passé 5-10 minutes, une demi-heure avant, et on n'avait rien vu. On n'a même pas vu que les barricades étaient plus haut dans la rue Gay-Lussac, on n'a rien vu.
D'accord.
Donc, une demi-heure avant, on a été le bon historien de la Révolution, on n'a rien vu.
Rien vu.
Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai appelé Foucault, qui était en Tunisie, pour lui faire entendre la radio, pour le tenir au courant de ce qui se passait dans le quartier latin, quoi. Donc, la nuit des barricades, je n'ai rien vu. Je suis resté chez moi.
D'accord.
Et je l'ai appris par la radio.
Et parce que là, et le reste du mois, ça s'est passé assez calmement pour vous, ou vous avez
J'étais dans la rue tout le temps.
Oui.
J'étais dans la rue tout le temps, mais j'appartenais à aucun groupe.
D'accord.
Alors, au Lunef, j'appartenais plus, puisque c'était en 63, en 62, à la fin de la guerre d'Algérie, c'était terminé, j'étais plus étudiant. Et puis, j'étais à ce moment-là, j'avais envie de rejoindre, nous, en tant que chercheurs du CNRS, on était au syndicat des chercheurs.
Oui.
Et le syndicat des chercheurs était assez communiste, assez conservateur, je dirais, par rapport à nos normes de l'époque.
Oui.
Et j'avais envie qu'on rejoigne plutôt le SNESUP où était Gessmar.
Oui.
Donc j'ai commencé à aller, alors après la nuit des barricades, donc dans tout le mois de fin mai, juin, toutes les réunions et du SNESUP et du CNRS.
Oui.
Donc j'étais à beaucoup de réunions, là je retrouve actuellement une amie justement de cette époque-là, j'étais à toutes les réunions, mais bon, c'était tellement corporatiste, bon, on réfléchissait sur la transformation des thèses, sur les carrières, bon...
D'accord.
Là, il y avait une activité très très intense, mais de type syndical réformiste.
D'accord. Parce que après l'agitation continuait, mais ça s'est déplacé un peu de la Sorbonne et du quartier latin vers l'université de Vincennes.
Ah oui, mais ça c'est longtemps après.
C'est longtemps après, ouais, c'est 6 mois après.
C'est en fait l'université de Vincennes n'ouvre qu'en janvier 69.
Oui.
Donc l'agitation va commencer, mais en février, je pense. L'occupation de Vincennes sera-t-elle février 69? C'est-à-dire que l'été... Bon, alors je me rappelle pas très bien ce qui se passe. L'été 68, on est allé encore en Tunisie, je crois.
Oui.
Parce que, bon, Foucault avait quitté la Tunisie... pratiquement obligé, chassé, sous étudiant est arrêté, mais on a passé l'été quand même en Tunisie.
Oui.
Pour oui, parce que l'invasion de la Pologne, de la Tchécoslovaquie,
oui,
se fait en août 68.
Oui.
Et on est en Tunisie.
D'accord.
Donc l'été on est en Tunisie parce que les gens sont en prison et il y a les procès qui
d'accord
se préparent. Et on fait la navette. Foucault donne son salaire pour les avocats, tout ça.
Parce que
on est en Tunisie.
Vous avez soutenu les étudiants tunisiens, c'est ça?
On a essayé.
Oui.
On n'a pas pu parce qu'ils ont été condamnés à 13-14 ans de prison.
C'est vrai.
Enfin, Foucault s'était pas mal investi. Il était resté en Tunisie le plus longtemps possible, d'ailleurs, pour laisser son salaire aux familles, parce que beaucoup étaient des chercheurs ou des assistants ou des boursiers qui faisaient vivre leur famille avec ces revenus-là.
Oui.
Donc Foucault était resté et la police tunisienne l'a forcé à partir. Donc il est rentré en septembre 68, quoi.
D'accord.
Mais l'été, on est sorti, on était en Tunisie. Donc si vous voulez, après juin, c'était quand même le calme, hein, après les élections.
Bien sûr.
Bon. Non, vraiment, il y a eu le mois héroïque de mai et de juin.
Oui.
Alors, moi, ce qui me frappe, c'est, bon, j'entends révolution avortée, échec révolutionnaire, tout ça. J'ai jamais eu l'impression qu'on faisait la révolution. Je sais pas s'il y a des gens qui ont cru qu'on faisait la révolution. C'est une idée qui s'est imposée après coup.
D'accord.
Moi, pour
c'était quoi, alors, pour vous?
Bon, c'était un mouvement social très anti-autoritaire.
Oui.
Mais il n'y avait pas de relais politique.
Non.
On en avait parfaitement conscience. Dans les manifestations, Mitterrand se faisait huer. Moi, je n'ai pas été à la manifestation de Charletti.
Non.
Ça ne me concernait pas. Et pourtant, j'aimais Mendès France. Et c'est très drôle parce que j'ai été sans doute parmi les tout premiers à savoir qu'il y avait une réunion très tôt en mai. Chez Mendès France, d'hommes politiques de gauche.
Oui.
Il se trouve que j'étais ma meilleure amie, c'est drôle, des hasards, ma meilleure amie était la fille de Jacques Rueff.
Oui.
Et un matin, elle me dit, affolée d'ailleurs, parce que c'était les réactions de son père, la gauche était en train de se réunir chez Mendès France.
Oui.
Et pour Jacques Rueff, Mendès France était un homme parfaitement respectable, qui était en mesure de devenir chef de gouvernement.
Oui.
Donc, c'était très grave si les gens se réunissaient à chez Mendès France. Et j'arrive au petit déjeuner à la Fondation Thiers et je dis de haut à mon ami Michel Brudière, qui allait travailler chez Pompidou, ah, vos jours sont comptés. Et il m'a toujours dit que j'avais été celui par qui ils avaient su, sans doute que les renseignements généraux leur auraient appris pas longtemps après, mais enfin qu'ils avaient appris que la gauche se réunissait chez Mendès France. Et tout le monde prenait ça très au sérieux.
Oui.
Mais pour moi, se réunir chez Mendès France, c'était pas grave.
Non.
C'était pas sérieux.
Non.
Je pense que moi, j'étais de ces gens qui étaient vraiment pas engagés dans un réseau, mais dans un mouvement de masse.
D'accord.
Qui ne voyait pas de relais politique, mais il y avait un formidable désir de changement des relations sociales. On a adopté le tutoiement généralisé tout de suite.
Oui.
Et moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est quand on a parlé de révolution de velours dans les pays de l'Est, je pense que c'était aussi la même chose. Il y avait beaucoup plus de violence. Enfin, il y avait de la violence aussi en Tchécoslovaquie. Il y avait de la violence. C'est vrai, la police a exercé une violence extraordinaire. Et encore, par rapport à nos normes. Parce que Dieu merci, si ça avait été Papon, la violence aurait été autre chose. Hein.
Oui, oui.
Mais Grimaud, que j'ai rencontré longtemps après, était quand même un homme extraordinaire. Et bon, on a eu la chance d'avoir quand même à la tête de la police quelqu'un de sérieux.
Oui.
Mais il n'y avait pas de relais politique, on en avait tout à fait conscience. Mmh. Donc pour moi, c'était quand même bon, plus proche de la révolution de velours, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de perspective politique absolue, qui est une demande de changement. C'est pas une demande de changement, c'est pas la révolution.
Mais il y avait des gens qui disaient à l'époque, ce n'est qu'un début, où ils ont écrit vers la guerre civile.
Oui, oui.
Donc, ça, pour certains,
c'était Gessmar et Julie. Je suis pas. En plus, Gessmar y était-il. En était-il convaincu?
Mais vous avez rejoint la gauche prolétarienne.
En 70.
En 70. Alors pourquoi?
Quand elle a été dissoute.
Ah bon?
Quand elle a été dissoute. Ben, toujours mon sens de la liberté de la justice. c'est-à-dire, quand elle a été dissoute, et que ça devenait toute activité liée à la gauche prolétarienne était interdite.
Oui.
Et on passait devant la Cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire un tribunal d'exception.
Oui.
Donc, c'est à ce moment-là, quand elle a été interdite, j'ai demandé à Jacques Rancière, qui était à la gauche prolétarienne, de l'y rejoindre. Parce que je trouvais ça inacceptable comme condition. Mais très vite, à la gauche prolétarienne, comme me disaient mes copains, me disaient en bon fils d'artisan, je me suis mis à mon compte.
C'est-à-dire.
Se mettre à son compte, c'est-à-dire ouvrir sa petite entreprise. Et c'est Jacques Donzelot qui disait ça, que j'étais un vrai fils d'artisan puisque je m'étais mis à mon compte dans le gauchisme, c'est-à-dire j'ai proposé à Foucault qu'on crée le GIP.
Alors ça c'est votre idée à vous, le
GIP. Oui, c'est-à-dire que c'était j'étais entré à la gauche prolétarienne dans une petite cellule très particulière.
Oui.
Bon chic, bon genre, disons, c'était préparer les procès politiques.
Oui.
Et c'est-à-dire essentiellement travailler avec les avocats, dans ce sens que j'ai dit c'était bon chic, bon genre,
oui.
C'était travailler avec les avocats, donc il fallait être propre sur soi, plutôt habillé proprement pour aller voir les avocats, en province, surtout à Paris. Bon, les avocats étaient gauchistes, mais en province, c'était plus difficile.
Oui.
Il fallait donc travailler avec les avocats et en même temps aller trouver des témoins, parce que la police et la justice tendaient à faire des actes militants, des actes délinquants.
Oui.
Donc il fallait prouver que c'était des actes militants. Par exemple, une histoire dont j'ai eu à m'occuper. Un gars avait mis un petit pétard, enfin une petite bombe, enfin pas, sous une voiture pour faire sauter la voiture d'un industriel. Et donc le problème c'était faire sauter la voiture ou faire sauter le conducteur quand il entrait dans la voiture.
Oui.
Dans un cas c'était une destruction de matériel, dans un cas c'était une tentative d'assassinat. Bon. Et ni l'avocat ni moi ne connaissions bien les voitures. J'ai appris à conduire en mai 68 parce que j'étais trop privé de ne pas avoir de voiture. Je savais pas conduire jusque-là. Donc, je savais pas quand on montait dans une DS, la DS monte.
Oui.
Alors que la police disait, quand on monte dans une DS, elle descend et donc la bombe va exploser. Il fallait donc que le conducteur monte dans la... Donc, il a fallu que j'aille chercher des techniciens pour m'expliquer. L'avocat ne le savait absolument pas. Donc, on allait chercher des ouvriers, des avocats qui expliquaient que c'était pas possible que... donc, c'était pas une... Donc, on avait à chercher des témoins, des gens où, quand un type est arrêté dans une usine, trouver des ouvriers qui voulaient témoigner que la situation dans l'usine était insupportable. Oui. Donc, voilà, mon travail, c'était de préparer les procès politiques pour l'ouest de la France. Bretagne, Normandie...
Et pourquoi dans l'ouest?
Bah parce qu'on était, il y avait pas mal. La vallée de la Seine était une des régions industrielles assez importantes. Il y avait le textile était en train de disparaître, la chimie s'y implantait
avec les pétroles. La Normandie.
Puis alors la Bretagne, il y avait les chantiers navals de Saint-Nazaire.
C'est vrai. Ouais.
Et il y avait aussi du Bigeon. Enfin, il y avait quelques grosses entreprises à Saint-Nazaire et Nantes. Donc voilà, c'était des régions ouvrières. Il y avait également les paysans de Lambert. Lambert était dans l'ouest. Bon, j'ai été voir Lambert aussi. Il y avait aussi là une implantation paysanne avec autour de Lambert.
D'accord.
Donc
tout ça c'était dans le contexte de
la gauche prolétarienne.
De la gauche prolétarienne.
Donc à l'intérieur de ces procès des militants politiques, j'ai proposé qu'on fasse une commission d'enquête sur la situation dans les prisons.
D'accord, parce qu'il y avait beaucoup de maoïstes et autres dans
les
prisons.
Il y avait à peu près 200 et quelques maoïstes en prison.
Oui, qui faisaient de la grève de faim.
Alors, ils ont fait une grève de la faim, la première en septembre 70, je crois, oui, septembre 70, qui s'est pas très bien passée. Et c'était Serge Julie qui était responsable de notre groupe.
Oui.
De notre cellule qu'on appelait l'OPP, l'Organisation des Prisonniers Politiques.
Oui.
Et Serge Julie en était responsable, entre autres. Et puis, pour des raisons que je n'ai jamais bien élucidées, la gauche prolétarienne n'était pas transparente. Et moi, j'ai toujours eu comme politique de ne pas savoir les choses que je n'avais pas à savoir, n'étant pas sûr de résister à la torture. J'avais toujours, m'étais dit, je ne peux assurer que selon mes moyens, donc si on m'arrête, si on me torture ou si on m'intimide, je ne sais pas. Donc, je n'ai jamais voulu savoir trop de choses, donc je ne connaissais pas bien la direction de l'organisation. Et donc, Serge Julie a été puni de ne pas avoir bien organisé cette grève de la faim. Il a été envoyé, comme les traditions communistes, auprès des ouvriers, parce que la punition, c'est d'aller aux usines.
Ah oui, donc il a été établi quelque part.
Il a été envoyé dans le Nord, où il a préparé le procès des mines avec Sartre.
Ah, le tribunal de Lens.
Le tribunal de Lens.
D'accord.
Et je suis allé au tribunal de Lens pour distribuer des tracts, pour... comme ça, un peu faire le grouillot. Et puis, j'étais très intéressé par les dépositions des médecins.
Oui.
Il y avait des ingénieurs des mines, qui avaient fait l'école des mines, et puis des médecins qui ont exposé les problèmes de sclérose, de toutes les maladies des mineurs.
Oui.
Et c'était absolument remarquable. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas une enquête sur les prisons avec des spécialistes, des médecins, des avocats? Pourquoi on ferait pas, pour soutenir la grève de la faim des militants qui voulaient obtenir le statut politique, pourquoi on ferait pas quelque chose du même ordre? Donc c'était, ça avait été organisé par les Amis de la Cause du Peuple, qui était une association créée par Liliane Siegel, une des femmes de Sartre.
Oui.
Et c'est elle qui l'animait. Et donc j'ai eu l'idée de demander à Foucault d'animer un groupe de spécialistes sur la situation pénitentiaire.
D'accord.
Après le procès de Lens, quoi.
Et ça, c'était le groupe d'information sur les prisons.
C'est ça, ça a été le groupe d'information sur les prisons.
Et c'était essentiellement une enquête ou...
Alors...
Un groupe de pression, qu'est-ce que ça
fait? Alors, à l'origine, la demande que j'avais faite à Foucault, c'était qu'on fasse une enquête.
Oui.
Une commission d'enquête avec des spécialistes, comme on avait fait au procès de Lens.
Oui.
Et puis, donc, on a réuni ici, dans cet appartement, des avocats, le syndicat de la magistrature venait d'être créé.
Oui.
Donc, il y avait des gens, Louis Joannet, du syndicat de la magistrature, des médecins de prison,
oui.
Des psychiatres, surtout les psychiatres étaient intéressés par Foucault, des journalistes de la justice, du judiciaire. Bon, et puis on avait commencé un questionnaire sur les prisons.
Oui.
Parce que, justement... je me suis pas établi, je vous disais tout à l'heure, et je trouvais que les Italiens qui n'avaient pas, qui s'étaient pas établis, les militants italiens s'étaient pas établis, à la différence des Français.
D'accord.
Et ils avaient fait des enquêtes d'étudiants, de sociologues auprès des usines. Et j'avais trouvé intéressant cette méthode de sociologue, de faire un questionnaire, d'enquêter, de préparer. Donc on avait préparé un questionnaire, on a fait une réunion ici.
Pour des prisonniers
pour, qu'on aurait fait passer dans les prisons, les personnels ou les gens qui sortaient de prison, parce qu'on ne savait pas très bien les moyens de faire entrer un questionnaire
exactement.
Dans les prisons.
Oui.
Donc, bon, c'était un peu... bon, c'était un projet, mais on ne savait pas encore très bien comment on le ferait.
Oui.
Et puis on a fait cette réunion ici... Et il nous est apparu que c'est les médecins de prison, les aumôniers, les avocats, ils n'étaient pas prêts à affronter la prison et à nous dire des choses intéressantes.
Oui.
C'était clair qu'on pouvait rien faire avec les professionnels qui travaillaient dans les prisons ou avec très peu d'entre eux.
Oui.
Et à ce moment-là, Foucault y avait déjà réfléchi à imposer l'idée que ce ne serait pas une commission d'enquête, mais un groupe d'information, donc pas une commission officielle visible, mais un groupe dont l'information serait rassemblée par toutes sortes de canaux,
oui.
Plus ou moins clandestins, ou secrets,
oui.
Et qu'il y aurait des noms incontestables pour accréditer l'information. Donc Foucault se proposait, on avait demandé à Vidal Naquet qui avait fait un énorme travail sur la torture en Algérie,
oui, oui.
Et puis Domnach, parce que on avait voulu demander à Casamayor, qui était donc un des grands magistrats de gauche de l'époque,
oui.
Enfin c'était son nom de journalisme, Casamayor, je ne sais plus son nom réel. Mais en fait, il était connu sous le nom de Casamayor.
Oui.
Et Casamayor disant, ben justement, obligation de réserve, je ne peux pas mettre dans une commission d'enquête sur les prisons, mais demander à Domnach.
D'accord.
Surtout que Domnach, la revue Esprit était en train de devenir la revue des professionnels du social.
D'accord.
Et le social était en train de devenir une profession nouvelle.
Oui, d'accord.
Les assistantes sociales, tout ça,
oui, oui,
on
oui.
Commençait à aller à l'université, on sortait un peu du caritatif pour la professionnalisation, et c'était un peu un de leur repère, la revue
d'accord.
Esprit.
D'accord.
Donc il s'y est engagé tout à fait, et voilà comment le groupe d'information sur les prisons a pris cette forme qui n'était pas celle de la commission d'enquête, parce qu'on n'aurait pas pu enquêter oui. En fait. On serait présenté devant une prison, c'était l'idée de la gauche
oui.
Prolétarienne, on se présentait devant une prison, on se faisait jeter, ou on nous ouvrait une prison modèle fictive, quoi, bon.
Alors, comment vous avez trouvé des renseignements là-dessus?
Eh bien, on a fait entrer clandestinement, par des assistantes sociales, des surveillants, des éducateurs surtout,
oui.
Des questionnaires.
Oui.
On a les gens sortant de prison aussi, nous ont donné des informations.
Oui.
Et au bout de... On a commencé réellement... Bon, on a commencé à travailler ensemble en décembre 70. Le groupe a été connu le 8 février 71, au moment de la fin de la grève de la faim, quand la deuxième grève de la faim.
Oui.
Alors, cette deuxième grève de la faim, elle avait été coordonnée par Benny Lévy.
C'est-à-dire coordonnée en comment ça?
C'est-à-dire que notre groupe OPP, dont je vous ai parlé oui. tout à l'heure, notre
oui.
Cellule de, qui s'occupait des prisonniers, qui avait été au départ coordonnée par Serge Julli.
Oui.
Serge Julli avait été puni, il avait été envoyé auprès des masses. Celui qui a pris la succession, c'était Benny Lévy.
D'accord.
Que je ne connaissais pas. Hein, j'ai mis plusieurs semaines avant de savoir qui il était.
Ah bon? Et vous êtes bien entendu avec lui?
Oui, beaucoup.
Beaucoup.
J'étais chargé de trouver des appartements bourgeois pour faire des réunions clandestines. Et donc, je mettais j'avais tous mes amis qui me prêtaient comme ça des appartements. Puis un jour, on arrivait dans un appartement très bourgeois, puisque c'était l'ancien appartement du couturier Paul Poiret.
Oui, formidable. Et vous êtes deux, il faut trouver des appartements, c'est ça?
Pour une heure ou deux. Et puis, on est arrivé dans cet appartement, et à ce moment-là, mon copain qui m'a dit, mais c'est Benny Lévy, il avait été en cagne avec lui.
Ah ouais, d'accord.
C'est comme ça que j'ai su que c'était Benny Lévy. Je ne savais pas. Et donc, notre groupe avait été coordonné par Benny Lévy. Il avait été assez efficace. C'était un groupe qui avait une réflexion politique bien.
Oui.
Donc, ça avait été assez... ça s'était bien intégré à l'AGP.
Oui.
Bien que l'AGP ait un peu de problème avec les détenus de droit commun.
Comment ça?
Ben, vous savez, il y a la vieille tradition de méfiance
oui.
À l'égard du lumpen prolétariat, qui
oui.
était quand même le vocabulaire qui était encore courant.
Bien sûr.
Le lumpen prolétariat par rapport aux vrais ouvriers,
oui.
Ce vocabulaire a disparu, je crois, un peu à notre époque, à l'époque du GIP, mais c'est encore quelque chose qui revenait. Alors, la tradition maoïste, malgré tout, il y avait une grande armée qui avait intégré des brigands. Alors, on avait quand même des exemples dans l'histoire maoïste de l'intégration auprès des paysans et des représentants du vrai peuple
oui.
de brigands. Mais il y avait des moments où c'était mal vu.
D'accord.
C'était pas toujours bien accepté. C'était du gauchisme dans le gauchisme.
D'accord. Non, je comprends. Et... donc ça a marché combien de temps ce groupe?
Ben,
avec quel succès?
Ça a marché pendant 2 ans.
Oui.
Alors, bon, le succès, bon, il y a le bouquin de Dartière qui le raconte bien.
Oui,
en fait.
Oui.
Alors, il s'est passé 3 événements importants. Premier événement, la suite de la grève de la faim des politiques
oui.
a fait que la presse a été autorisé pour tous les détenus dans toutes les prisons.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient lire la presse.
Oui, avant ils n'avaient absolument pas de radio, pas de journaux.
Ah, d'accord.
À part Paris Match ou des journaux sans couleur politique. Et en plus, on découpait quand il y avait un article politique.
Ah, bon.
Donc là, ils ont eu le droit d'acheter. On ne leur donnait pas les journaux, bien sûr. Ils ont eu le droit d'acheter la presse. Donc les actions du GIP étaient immédiatement connues dans les prisons.
Oui.
Et du coup, les détenus ont eu confiance dans le GIP. Vous savez qu'en France, il y a un juge qu'on appelle le JAP, le juge d'application des peines.
Oui.
C'est le juge qui est responsable du déroulement de la peine en prison.
D'accord.
Et donc, normalement, un détenu doit faire appel au JAP si ça se passe mal.
Mm-hmm.
Mais ils ont pris l'habitude de dire JIP à la place de JAP. Ils l'écrivaient sur le mur. On a vu dans les prisons des trucs, on va prévenir le JIP.
D'accord.
Et c'était plus le JAP. Donc là, c'était quand même une victoire.
Oui, oui.
Tous les journaux sont mis à parler de notre enquête dans les prisons. On a publié des brochures, dont une enquête dans 20 prisons à partir des questionnaires qu'on avait reçus.
Oui.
Et les informations qu'on avait données sont devenues probantes par les révoltes des prisons.
Oui.
Alors, il y a eu un événement, je vous dis, le deuxième événement. Le premier événement, c'est l'entrée de la presse dans les prisons, qui nous rendait crédibles. Deuxième événement, c'est que dans l'été 71, Oui, c'est 71. En l'été 71, il y a Attica.
Oui, aux États-Unis.
Aux États-Unis. Oui. La presse française, naturellement, parle beaucoup d'Attica. Les détenus sont informés de la révolte d'Attica.
Oui.
Et il y a deux détenus qui font à titre privé un coup. Ils veulent s'évader, ils prennent des otages dans la prison de Clairvaux.
Oui.
C'est deux voyous, absolument voyous. Oui. Buffet et Bontemps, enfin bon. Et ils sont.
C'était Buffet et Bontemps, vous parlez de Buffet et Bontemps.
Buffet et Bontemps, oui, c'est oui. Ça. Oui, c'est oui. Buffet et Bontemps, ils prennent une infirmière et un surveillant. Ils les égorgent.
Oui.
Bon, c'est l'horreur. Bon, ils ont été condamnés à mort et tout.
Oui.
C'est l'horreur, mais ça a beaucoup d'impact dans la presse. Les gens se posent la question, faut-il réformer les prisons? Faut-il abolir la peine de mort ou pas? Enfin bon, il y a un débat intense. Et les surveillants sont très, très hostiles à ce moment-là au GIP, très répressifs. Et le ministère est obligé de donner des garanties aux surveillants pour les apaiser et supprime le colis de Noël qui est la tradition dans les prisons françaises. Une fois par an, les familles peuvent envoyer un colis.
Ouais, d'accord.
Seulement, les gens, bon, on aime beaucoup le saucisson, on envoie des saucissons. Dans le saucisson, on peut cacher une lime. Donc, il faut couper le saucisson en tranches dans les prisons. Donc, les surveillants, plein de travail, détestent le colis de Noël.
D'accord.
Et donc, Pleven supprime le colis de Noël et c'est les révoltes dans les prisons.
Surtout dans l'Est.
Il y a eu 32 révoltes. 32 révoltes. Alors, les grandes révoltes, ça a été dans les prisons de jeunes, notamment, à Toul et à oui. Nancy. Alors, Toul et Nancy, les prisons ont été complètement dévastées.
Et c'était des prisons de jeunes, là?
Alors, à Toul, il y a deux prisons.
Oui, d'accord.
Et il y a une prison de vieux, enfin d'adultes,
oui.
qui se passe selon les normes très traditionnelles.
Oui.
Ils se révoltent, on leur fait des promesses. Les promesses ne sont pas tenues.
D'accord.
On leur promet de changer le directeur. Il n'est pas changé. Et à ce moment-là, la prison de jeunes fait la révolte. Et ils font une révolte tout à fait d'un style nouveau, c'est-à-dire saccage systématique, sitting dans la cour, à la manière de la Sorbonne. C'est-à-dire, ils parlent toute la nuit, et eux, ils se réfèrent à mai 68. Alors que jusqu'à présent, mai 68, dans les prisons, c'était absent.
Et là, c'est des prisonniers de droit commun.
Droits communs. Oui, il n'y avait pratiquement plus de politique à ce moment-là.
Oui.
Donc là, c'est une révolte de jeunes droits communs.
Oui.
On commence à avoir beaucoup de gens en prison pour la drogue.
D'accord.
Il y a le chômage, un peu déjà pour les jeunes,
oui.
Et beaucoup la drogue. Et on n'a pas une conscience de l'emprisonnement des jeunes. C'est vraiment nous qui sommes parmi les premiers à avoir sorti le problème.
Oui.
Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, sont défendus par des avocats de la CGT, mais on ne les présente pas vraiment comme des fils d'ouvriers. C'est toujours cette image que les prisons, c'est des délinquants. Puis il y a aussi beaucoup d'immigrés qui commencent à être en prison en quantité importante.
Oui.
Donc, si vous voulez, on met l'accent sur la nouvelle population pénitentiaire. Jeunes, immigrés, tox. Et la révolte de Toul est tout à fait exemplaire de cette jeune population. Et la révolte de Nancy aussi, la plupart des leaders sont des jeunes.
Quand vous dites jeunes, au-dessous de 18 ans ou
non,
21
au-dessous de 30 ans, au-dessous de 30 ans, quoi. 25
d'accord.
ans, 22 ans.
Ouais,
Hoffman, ils ont déjà déjà une carrière de prison.
D'accord.
Le jeune Hoffman, Jackie Hoffman, qui est un des leaders de la révolte de Nancy, il avait déjà plusieurs années de prison.
D'accord.
Il ne connaissait pas, il a dit même qu'il n'avait d'existence sociale qu'en prison.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il est devenu?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que j'aimerais savoir, on est resté en contact quelques années, mais je ne sais pas.
D'accord. Et puis, vous avez parlé des immigrés, parce qu'à ce moment-là, il y avait le comité Djellali.
Alors, le comité Djellali, ça c'est un peu particulier. Il y avait, si vous voulez, une mobilisation des immigrés qui commençait à être très importante en France. Et la gauche prolétarienne s'en est occupée.
Oui.
Les trotskistes s'occupaient davantage des soldats. Qu'est-ce qu'ils avaient? Les trotskistes aimaient bien les gens encadrés, les médecins et les soldats.
Les médecins?
Oui, ils ont pas mal d'influence sur les médecins.
Oui.
Mais et les soldats, il y a eu les premiers comités de soldats, tout ça. C'était un peu les trotskistes qui s'en occupaient. La gauche prolétarienne s'occupait davantage des gens qui étaient en marge du monde ouvrier.
Oui.
Donc il y avait quand même Renault. Une grande partie de la classe ouvrière de Renault était faite d'immigrés.
Oui, bien sûr.
Alors, on a commencé à travailler beaucoup avec les immigrés, et les immigrés étaient très réceptifs, en plus, à la question des prisons, parce qu'ils savaient très bien, ça les menaçait. Quand on a été manifesté chez Renault, il n'y avait pas du tout de peur du lumpen prolétariat. C'était le même monde, enfin, ils comprenaient très bien.
Et, pardon, quels étaient les liens avec cette population d'immigrés qui commençait à se mobiliser et devenir engagée, c'était par le comité Jalali, comité Palestine.
Oui, alors il y avait deux grandes organisations. Il y avait les comités Palestine qui étaient l'organisation menée par les ouvriers eux-mêmes directement, et sans doute par des cadres, peut-être tu venais du Moyen-Orient, je ne sais pas. Je ne connais pas bien les comités Palestine. Il y avait les comités Palestine qui étaient quand même influents dans la région parisienne,
oui,
et certainement ailleurs, mais dans la région parisienne. Et puis la gauche prolétarienne qui commençait à prendre des contacts et à faire des organisations spécifiques. Alors on a créé, je dis on, enfin c'est les gens de la gauche prolétarienne, mais j'étais à la préfecture de police pour déposer les statuts avec certains membres de la gauche prolétarienne. On a créé un comité de défense de la vie des immigrés. Parce qu'il y avait quand même la police avait tiré facilement sur les immigrés. Oui. Il y a eu Mohamed Diab dans un commissariat, il y a eu plusieurs immigrés qui ont été tués par la police.
Oui.
Alors, on avait fait un comité de défense de la vie des immigrés.
Oui.
Je me rappelle, on a déposé les statuts, donc, mais il y avait sans doute d'autres comités un peu localement qui devaient être créés. Alors, ces comités de défense des immigrés se trouvaient aussi confrontés au problème de carte de travail, carte de séjour,
oui,
toutes ces difficultés de trouver du travail régulier. Il y avait notamment un problème d'immigration clandestine.
Oui.
On avait beaucoup de conflits, ce problème, est-ce qu'on doit défendre les ouvriers clandestins ou bon, et finalement, l'option de la gauche prolétarienne, c'était de défendre les ouvriers clandestins.
Oui.
Donc il y avait beaucoup d'ouvriers irréguliers, clandestins, il y avait beaucoup d'ouvriers qui avaient des difficultés à avoir leurs papiers, donc c'était une des bases, et puis aussi résister à la police à cause de la mise en question de la vie des immigrés.
Oui.
Donc c'était les modes de constitution de groupes d'immigrés. Oui. Puis il y avait en face les comités Palestine. Alors, il y avait une rivalité entre les comités Palestine et les comités créés par la gauche prolétarienne. Et la rivalité, elle portait essentiellement sur la question du soutien armé.
Oui.
Ça, c'est devenu un débat souterrain, parce que je crois qu'en France, on n'en a jamais trop parlé, mais sur le terrain, c'était quand même un enjeu, quoi. Est-ce qu'on est en mesure de fournir des armes?
Ah oui, parce qu'ils vous ont demandé des armes, c'est
oui,
ça?
Oui, c'était la question.
Et vous aviez des armes? La gauche de la GP ou l'ancien GP avait des armes?
Je ne sais pas. Il y avait un petit groupe militarisé.
Oui, il y avait Olivier Rollin.
Oui, il y avait ce petit groupe d'Olivier. Bah, Dominique Grange, vous interviewez Dominique Grange.
Oui.
Bon, elle peut savoir. moi, je n'ai jamais su.
D'accord. Donc, mais pour revenir à cette rivalité, c'est quelque chose qui vous a empêché de travailler ensemble ou...
Non, c'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, il y avait un enjeu. Je crois que les responsables de la gauche prolétarienne en étaient très conscients. Il y avait un enjeu, doit-on céder à cette demande?
Oui.
Ou pas? Bon. Cette demande, elle venait quand même un peu, notamment les groupes du Moyen-Orient.
Oui.
Moi, je sais que, étant donné que j'étais en contact avec des anciens détenus, j'étais en contact possible avec des sources d'armement.
Oui.
Et les groupes politiques avec lesquels j'étais en contact par ailleurs me demandaient si je pouvais les mettre en contact et amener des armes.
Oui.
Et un jour, quand je me suis retrouvé avec quelques revolvers chez moi, j'avoue que j'ai eu les jetons et j'ai demandé aux gens de remporter les revolvers. Et j'ai pas fourni de revolvers, hein. C'était des Turcs qui les demandaient. D'accord. J'ai pas fourni. Et je me suis dit que j'entrais dans quelque chose d'incontrôlable. Bon. Mais j'ai vu que c'était possible, quoi. Enfin, je me suis retrouvé dans de très jolis revolvers.
Oui.
Et paniqué, là. Et à la goutte d'or, la question s'est vraiment posée de fournir des armes. Alors c'était une espèce de test aussi. Vous êtes vraiment nos alliés jusqu'où vous allez.
Oui. Oui.
Et là, je pense que les responsables gauche prolétariennes ont toujours résisté à cette demande-là.
D'accord.
Soit par leur, est-ce que c'est leur éthique, est-ce que c'est leur recrutement social, est-ce que bon, on n'a pas eu de mouvement terroriste en France avant très tardivement le petit groupe d'Action Directe, quoi.
Oui, oui. Donc ces groupes d'immigrés n'ont pas fait la lutte armée.
Non. Mais les comités palestiniens faisaient une pression.
Oui, d'accord.
Est-ce que c'était d'ailleurs pour s'en servir en France ou pour les passer ailleurs? Mais il y avait d'autres systèmes de circulation. Enfin, je veux dire, en Palestine, c'était pas en manque d'armes. C'était pas ce qu'on aurait pu récolter en France.
Et vous dites que ces groupes d'immigrés, c'est plutôt des gens. Vous parlez des gens du Moyen-Orient. Vous voulez dire des gens de la Turquie ou de plus que des Maghrébins?
Les Maghrébins, s'ils étaient en contact avec les mouvements palestiniens. Autrement, quand ils le demandaient, c'était pas pour le Maghreb en tout cas.
Oui.
D'abord, les mouvements, les pays maghrébins sont beaucoup trop répressifs pour qu'ils puissent. Espérer. Mais non, j'ai jamais entendu de demande pour le Maghreb. C'était soit en France pour se défendre,
oui.
Soit pour faire quelque chose au profit de la Palestine.
Oui.
Mais le problème s'est vraiment posé, je dirais, en 72.
Oui. D'accord.
72-73. Non, c'est arrêté en 72-73.
Est-ce qu'on peut aborder la question de la politique sexuelle, parce que vous avez dit tout au début de notre entretien que vous avez fait un engagement politique parce qu'un copain vous a dit vous avez fiché trop votre homosexualité. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu ça et aussi de m'expliquer comment la question de la politique sexuelle est émergée dans l'après 68, enfin pour vous et puis en général.
Alors, c'est vrai que pendant la guerre d'Algérie, par exemple, moi je me suis interdit toute relation avec des agents. Je ne voulais pas qu'on soupçonne que mon intérêt contre la guerre d'Algérie pouvait être un intérêt privé, même si j'avais pu avoir des tentations. C'est vrai qu'il y avait là, il n'y avait rien à l'horizon. En mai 68, je ne sais pas quel jour c'est, quand la réouverture de la Sorbonne, c'est quoi, être le 14
par là, je ne sais pas,
le premier jour ou le lendemain de réouverture de la Sorbonne, où j'allais voir la Sorbonne, avec un peu de scepticisme, à vrai dire, parce que ces grands baratins des trotskistes, notamment Ben Saïd, qui faisaient des discours révolutionnaires...
Interminables.
Et connu déjà. Vous voyez, il y a une chose que je vous ai pas dite. Je dis, bon, j'ai pas cru qu'il y aurait une révolution, mais en même temps, en mai 68, beaucoup de gens étaient dans le passé plus que dans l'avenir.
Oui.
C'est une des choses qui m'a beaucoup frappé, que les gens revivaient 36.
Oui.
Tout le monde parlait de 36, enfin tous les aînés qui avaient connu 36, moi bien sûr que non, mais tous les aînés parlaient de 36, ou des républicains espagnols, ou les fils d'anarchistes espagnols, vous parlez de la République espagnole. C'est-à-dire que J'ai retrouvé la même chose en allant aux États-Unis à peu près en 69, 70, 70. J'étais à Buffalo en 70. Les gens vous parlaient, à Buffalo, il y a une énorme communauté slave, et les gens vous parlaient de 17. C'est-à-dire, ces mouvements s'inscrivaient dans le passé beaucoup plus que dans l'avenir.
Oui.
Et ça, je sais pas si c'est une dimension que ressent dans le cahier de photos de nos camarades, là, Zancarini et Philippe Artière. Il y a un cahier de la CGT. Quand j'ai ouvert le cahier, j'ai dit, mais c'est 36. J'ai pas reconnu que c'était 68. Oui. Ça ne correspondait pas à 68 parisiens. C'était 36 pour moi, les photos que j'ai vues de 36. Donc, on était dans un mouvement un peu passéiste. Et la sexualité, très vite, a été indexée sur l'Amérique. Il y avait la gauche américaine et la gauche révolutionnaire. La gauche révolutionnaire qui avait des belles images du passé et la gauche américaine qui était peut-être dans un présent, mais un présent capitaliste. Et donc la sexualité était quelque chose qui n'était pas... Quand elle a commencé à être évoquée, elle était douteuse.
Oui.
Et alors, moi, je me rappelle, ça doit être le 14 mai, pardon, enfin, après la réouverture de la Sorbonne. J'arrive à la Sorbonne et je rencontre un de mes copains, qui s'appelle Guy Chevalier, qui était en cagne avec mon frère, et qui traverse la Sorbonne avec une pancarte, un bout de bois, et une pancarte en carton, toute petite, tout à fait peu professionnelle, tout à fait.
Oui.
Comité de lutte pédérastique, je crois.
Oui.
Je crois que ça s'appelait comme ça.
Oui.
Comité pédérastique révolutionnaire, peut-être comité pédérastique révolutionnaire ou comité de lutte pédérastique, je ne sais plus. Et j'avoue que j'éclate de rire.
Oui.
J'éclate de rire quand je vois ça. Je trouve ça complètement incongru. Très honnête.
Et les autres, ils éclataient de rire, ils ont trouvé ça drôle ou ils ont...
Ben, je sais pas, parce qu'il y avait une petite bande autour de lui, mais très peu de gens, il y avait peut-être 10-15 personnes autour de lui qui le suivaient pour trouver une salle pour tenir la première réunion de comité de lutte. Donc j'ai vraiment été assisté, je crois, à l'émergence de du thème sexuel à la Sorbonne en 68.
Oui.
Et je l'ai suivi dans l'amphi où il a fait un topo sur Reich.
Oui, d'accord.
Ce qui ne me passionnait déjà pas tellement, mais surtout que combien de temps auparavant, peut-être 6 mois auparavant, Marcus était venu à Paris. C'est 6 mois ou peut-être 1 an auparavant. Ah non, c'est beaucoup plus tôt que ça que je suis bête, j'étais à Saint-Cloud. Ah oui, non, ça c'est 68. Qu'en 63, ouais. Marcus était venu faire un cours aux hautes études sur l'homme unidimensionnel.
Oui, oui.
Personne n'y allait, c'était d'un ennui mortel. Et je me rappelle un de mes copains qui était prof de gym, qui était à l'école normale supérieure de gymnastique,
d'accord.
Et qui avait dit quand même c'est malheureux, personne ne va au cours de Marcus, tout ça. Donc il avait rameuté,
parce qu'il était connu en Allemagne, mais pas en France.
Oui, en France, il était complètement... Il venait de traduire sans doute l'homme unidimensionnel.
Oui.
Donc Marcus nous a fait quelques topos sur le surmoi capitaliste. Moi, ça me paraissait d'une rhétorique insupportable. Enfin bon, j'avais suivi quand même quelques leçons de Marcus, mais aussi par politesse, on l'avait invité à Saint-Cloud, il nous avait fait quelques conférences à Saint-Cloud, pour avoir des notes par là, de notes de Marcus. Donc on avait suivi ça. C'était déjà, pour nous, je sais pas, ça m'avait rien évoqué de révolutionnaire.
Oui.
Pour moi, déjà un discours constitué, tout ça. Bon, alors ce gentil Guy Chevalier fait un topo, Reich, Marcus. Les gens ont écouté, on prenait des notes comme dans tous les cours.
Bien sûr.
Et je ne sais pas quelle a été la suite de ça, mais en tout cas, c'est le premier mouvement. Oui. Et lui-même m'a dit, j'étais assez flatté de ça, parce qu'il m'a dit que c'était un de mes frères, enfin, qu'il l'avait beaucoup, qu'il considérait que mon frère avait été le premier activiste en Cagne à la Canale, qu'il l'avait un peu dynamisé. Donc, j'ai vu apparaître comme ça un mouvement à la Sorbonne, mais ça n'a pas eu tellement d'écho.
Non.
Et puis, quelques jours plus tard, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans le quartier du Palais-Royal, et j'entends des gens parler, en rigolant, du comité de lutte pédérastique de la Sorbonne. Et je les entends employer cette expression, la gauche américaine,
oui,
que je n'avais jamais entendu auparavant. Et je vois que d'emblée, on indexe ce discours qui faisait irruption, mais il ne faisait pas irruption complètement du passé, enfin, pas complètement des États-Unis, il venait de Reich, il venait de, bon, Marcus certes, mais Reich qui était quand même instruit, oui, dans la tradition trotskiste. Et bon, les gens parlent de la gauche américaine, et après ce thème est revenu très fréquemment, la gauche américaine. C'est-à-dire que j'ai entendu très tôt, en 68, un clivage entre ceux qui se réclamaient bon, d'un modèle californien, d'un idéal californien, et ceux qui se réclamaient du mouvement qui était plutôt dans la continuation de 36, de la Révolution, oui, tout ça.
Mais il n'y avait pas une sorte de compromis, une sorte de lecture marxiste de la répression sexuelle
Je ne sais pas. Parce qu'il y a une chose très tôt qui m'a frappé. Je suis parti faire des enquêtes de sociologie pour l'INSERM en Bretagne.
Oui.
C'était prévu, je suis parti. Et la grève générale a commencé, j'étais bloqué en Bretagne. Et je suis rentré en autostop. Alors, la grève générale des trains de tout, je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence.
La grève générale des trains?
Oui, 16-17 mai.
Oui, après le 13 mai.
Oui, oui, après le 13 mai, parce que j'ai pu partir par le train en Bretagne et tout ça. C'est peut-être le 20 mai, je ne sais pas.
Oui.
En tout cas, c'est quand je reviens à Paris, l'Odéon est occupé. Ça s'est fait pendant ma présence en Bretagne. Je reviens à Paris, donc je faisais des enquêtes en Bretagne. Et c'est très curieux. Parce que je faisais des enquêtes de santé publique en Bretagne.
Ah oui?
Pour l'INSERM. J'étais sociologue à ce moment-là.
L'INSERM, c'est quoi exactement?
C'est l'Institut de recherche, c'est l'Institut national, INSERM de la santé et des recherches médicales. C'est l'équivalent du CNRS, mais plus pratique, moins théorique, et pour les problèmes de santé.
Et vous faisiez ces enquêtes
en étant
au mois de mai même.
Oui.
Oui.
Oui. Oui, c'était prévu. On avait écrit aux gens que je devais arriver chez eux à telle date et tout.
D'accord.
Ça. Et alors, je faisais ces enquêtes de santé publique, et je rencontrais une résistance très très forte à parler. J'avais une cravate. Le ministère avait écrit aux gens pour leur dire qu'un enquêteur viendra, tout ça.
Oui.
Donc, j'étais perçu très officiel, et les gens avaient beaucoup de mal à me parler.
D'accord.
Et puis quand ils commençaient à me parler, c'était avec beaucoup de violence, d'angoisse, de lapsus et de choses intimes. Problème de santé, les gens me parlaient de sexualité, mais on sentait mais c'était très curieux parce qu'il y avait une grande résistance à me parler. Bon, je rentre à Paris, bon, c'est un contexte un peu particulier, si je raconte ça, je rentre à Paris, ne sachant pas ce qui s'était passé pendant 3-4 jours à Paris, bon, j'apprends que le Déon était occupé, tout ça, j'arrive chez moi, le téléphone sonne. Un de mes copains me dit, mon quartier est cerné par les CRS, je ne peux pas sortir de chez moi, est-ce que tu peux essayer d'approcher de chez moi? Il habitait Montrouge. Je dis, mais c'est pas possible, il dit, si, tout le quartier est bouclé, il faudrait que tu viennes et que tu essaies de me sortir de chez moi. Je Je trouve ça un peu bizarre, je me rends chez lui, et à travers la porte, il crie « Est-ce qu'un sociologue peut faire de l'information publique ?»
Oui.
Et je découvre un de mes copains qui avait complètement disjoncté.
Oui.
Et je pars avec ce copain, sachant pas quoi faire. Il me dit, je veux aller à la Sorbonne. Il n'y a pas de police. Ah ben, la police vient de partir. La police était là. J'étais assiégé. Je pouvais pas sortir de chez moi depuis plusieurs jours. Et il me dit, on va à la Sorbonne. Donc, on va au milieu de la nuit à la Sorbonne. Et on arrive. Et il me dit... tu sais, c'est devenu un lieu de totale liberté sexuelle.
La Sorbonne.
En fait, les gens avaient arraché les portes des chiottes. C'est-à-dire que plus personne ne pouvait pas aller chier, pisser. C'était totale liberté sexuelle, c'est-à-dire totale répression.
D'accord.
Et je me rappelle de cette nuit-là. Les gens étaient très survoltés, tout ça. Il y avait un gars qui prenait la parole pour faire un discours sur le socialisme. Et à un moment, le type dit cette chose qui m'avait paru très drôle en plein 68. Allez les camarades, on n'est pas ici pour s'amuser, on est ici pour construire le socialisme. Et on sait bien que c'est pas la même chose. Ça en dit long sur le scepticisme ambiant. Ça m'avait beaucoup frappé cette phrase, mais à ce moment-là, j'arrive à la Sorbonne, qui est un lieu de déréliction.
Oui.
Les gens y ont passé au moins 2-3 nuits, sont sales, vidés. L'idée que c'est un lieu de sexualité ne s'impose absolument pas. Les gens sont vraiment sales. c'est pas attirant. Ça pue le tabac, ça pue la crasse. Les chiottes sont bourrées de tout. C'est inaccessible.
Oui.
Enfin, ça vous montre plutôt une image de choses à l'abandon, quoi.
Oui.
Je crois qu'il y avait déjà les Katangais qui occupaient un petit peu une petite partie de la Sorbonne. On en parlait beaucoup, en tout cas.
Oui.
Image terrible. Donc, le lendemain matin, j'amène mon copain chez moi, et je le sens dans un tel état de surexcitation, que, au petit matin, on va chez les médecins refusent absolument, disant, il est trop agité, j'en veux pas. On va à la cité universitaire. À la cité universitaire, ils nous disent, mais il n'y a plus de place, c'est plein.
Oui.
Et ça, on le sait pas.
Oui.
Énormément de gens ont disjoncté. Et alors, c'était très drôle, parce que ce garçon, ses parents avaient été collabos.
Ouais.
Et par réaction, il était entré au Parti communiste.
D'accord.
Et en 68, les communistes sont les collabos.
D'accord.
Et ils disjonctent complètement. Et je l'emmène à la cité universitaire. On lui donne des calmants, mais on ne veut pas l'hospitaliser. Et le soir, il devient complètement délirant. Et je l'emmène à Sainte-Anne, où il est resté, ça a été la fin de notre amitié, il est resté donc des mois à Sainte-Anne. Je l'emmène à Sainte-Anne et il arrive et il crie « C'est pas moi, c'est elle la PD, c'est elle la PD !» On arrive en entrant à l'hôpital Sainte-Anne dans cette espèce de dénégation sexuelle gigantesque. Alors l'idée de la libération sexuelle en 68, c'est pas absolument le souvenir qui s'impose quand je me rappelle les quelques événements où on a évoqué la sexualité.
Quelque chose s'est passé après, dans les deux, trois ans après, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est qu'on appelle 68, ce qui est... quand je demandais à mes étudiants, je leur faisais une enquête, je leur demandais... J'avais beaucoup d'étudiants immigrés dans les années 80, et alors je leur demandais d'enquêter sur la sexualité auprès de personnes âgées, de personnes jeunes, et même en milieu immigré. Et tout le monde racontait que la pilule, c'était mai 68. Alors que c'était un peu avant quand même.
Oui, oui.
Mais personne n'avait intégré la pilule avant.
Oui,
et les gens confondaient la pilule, l'interruption de grossesse, tout ça. Les mouvements qui font notre imaginaire de 68, ils se créent en 71, 72.
Oui, d'accord. Oui.
Nous, le GIP partageait un local rue Buffon, qui est un local qui appartenait à Guattari.
Oui.
Qui avait été très probablement, enfin on me l'a dit, mais je crois une cache d'armes du FLN autrefois.
Oui.
Et on partageait le local avec le MLF, le phare et le GIP.
D'accord.
Et les premiers avortements en méthode Carman, on les faisait dans ce local-là.
C'était où ce local?
Rue Buffon, près du Muséum d'Histoire Naturelle, près
donc
de la mosquée.
Vous étiez à côté du phare et du MLF aussi?
Oui, on était dans le même local. On partageait le même local. On avait des heures, des tranches horaires chacun.
Mais d'accord.
Donc là, on est les mouvements qui naissent. On est les mouvements qui naissent en 71.
Oui.
Et moi, j'avais fait un papier avec Jacques Donzelot. On avait fait un papier dans le magazine littéraire, un numéro consacré à 68.
Oui.
C'était c'était Kravets qui avait coordonné ce numéro. Et Kravets, fait un papier. Et moi, notre hypothèse, c'était quand même que. Enfin, le sens du papier qu'on avait fait, c'est que quand on a créé le GIP, avec Donzelot, avec Foucault, tout ça, notre idée c'était quand même d'intégrer la fraction des gens qui étaient en prison dans un grand mouvement prolétarien.
Oui.
On insistait beaucoup, il n'y a pas donc pas de prolétariat, ces gens sont des fils d'ouvriers, et on avait adopter les mêmes registres d'actes politiques que pour les mouvements ouvriers. C'est-à-dire que les familles de détenus manifestaient dans la rue, on faisait des meetings, oui, à la mutualité, on faisait des prises de parole dans la rue de prisonniers de droit commun, et et on intégrait dans le mouvement ouvrier une fraction du mouvement ouvrier, oui, qui avait été occultée.
Oui.
Et à la fin du GIP, on s'occupe quand même des femmes en prison,
oui,
on s'occupe des homosexuels en prison, on commence à s'intéresser au problème de toxicomanie,
oui,
c'est-à-dire qu'on entre davantage vers des questions d'identité.
D'accord.
Et pas vers des questions d'universalité prolétarienne.
Et là, il y avait des homosexuels en prison pour des faits.
Alors, il y avait des travestis. C'est surtout, oui, eux qui nous ont concernés.
Oui.
On a, je sais pas si j'ai encore.
C'est un crime.
Alors, c'est pas. Je ne sais pas. Non, c'était pas un crime parce que. Mais je ne sais pas exactement. Il faut que j'ai jamais poussé. Je pense que. Je sais qu'à une époque, c'était illégal de se travestir. Je sais pas cette époque-là si elle était encore illégale. C'était soit du racolage, soit, oui, de la drogue.
Oui.
Mais en tout cas, il y avait un quartier des travestis à Fresnes.
D'accord.
Et on les gardait quelque temps là, essentiellement. Je sais même pas s'il y avait un jugement, mais c'était essentiellement pour les humilier. Parce que bon, un travesti qui est enfermé, mettons une semaine ou deux, bah effectivement, quand il sort, il est barbu, il a une jupe et il est barbu. Il a plus de maquillage, les seins flasques, enfin bon. Et effectivement, on le rend grotesque.
D'accord.
Et donc leur douleur majeure, c'était justement le non-respect de leur transsexualité.
Oui.
Donc ils nous avaient contactés pour ça, et on commençait à chercher un peu, quelle base, c'est vrai que c'était des thèmes assez nouveaux,
oui,
comme thème politique, la défense de la transsexualité. Donc c'était pas tant les homosexuels en tant que tels, que les travestis de Fresnes qui nous ont mobilisés, et puis des suicides de prison, parce qu'à la fin du mouvement, la fin du mouvement des prisons s'est traduite par une épidémie de suicide très importante.
Oui, oui.
Et on a publié une brochure,
oui,
là-dessus.
Oui.
Et il y avait notamment parmi les gens qui sont suicidés un garçon homosexuel qui avait beaucoup écrit sur la situation des homosexuels en prison.
D'accord.
Donc notre mouvement, à la fin, si vous voulez, avait quand même changé d'accentuation majeure.
Oui.
Ce qui était, c'était pas tant l'appartenance au prolétariat.
Oui, d'accord, je comprends, mais vous avez quand même abordé la question de la répression sexuelle par l'Égypte plutôt que par le phare, c'est ça? Vous avez fait partie du
phare? Non, je n'ai pas fait partie du phare.
Pourquoi pas?
Parce que, si vous voulez, les réunions étaient essentiellement des réunions de drague, aux Beaux-Arts, enfin tous les gens ne racontaient que les rencontres de drague. Et moi, j'avais un peu eu un point d'honneur à être militant homosexuel dans un mouvement généraliste.
D'accord.
À la gauche prolétarienne, ça a été, bon, je l'ai raconté d'ailleurs dans un bouquin que des types ont fait, qui s'appelle Génération, sur l'histoire de l'homosexualité. À la gauche prolétarienne, donc mouvement qui se voulait vraiment prolétaire, je suis envoyé donc dans l'ouest de la France, je suis envoyé notamment dans les chantiers navals de Saint-Nazaire.
Oui.
Et j'apprends que un des responsables politiques pose la question à Benny Lévy de est-ce que c'était bien judicieux de m'envoyer militer en milieu prolétarien.
Oui.
Et bon, moi j'ai jamais su que ça, la question avait été posée. Benny Lévy a rabroué le gars, la question a été considérée comme non avenue, et bon, je n'ai jamais eu la moindre remarque. Tout le monde savait parfaitement que je vivais avec Foucault, la gauche prolétarienne se servait suffisamment de Foucault, il n'y avait pas de problème. Donc, la question avait été posée quand même. J'arrive à Saint-Nazaire, c'est très curieux parce que je suis accueilli par un très jeune garçon, très beau, délégué CGT des chantiers navals,
oui,
que j'ai entendu il y a 8 jours, je ne savais même pas son nom de famille, j'ai entendu son nom il y a 8 jours à la télé, où il a été interviewé comme dans l'histoire de 68.
Ah ouais, d'accord.
Et ce garçon s'appelait, je crois, Gilbert, mais j'ai entendu son nom, je ne l'ai pas écrit, donc je ne me rappelle plus son nom. C'était d'origine italienne, sans doute milanais, très blond. Et quand j'arrive, il repère tout de suite quel militant il avait en face de lui. Puis il me dit, tiens, c'est bien que ce soit toi qui vienne, parce qu'il faudrait quand même bien qu'on parle de l'homosexualité en milieu ouvrier.
Ah bon? Et comment ça s'est passé?
Alors, j'étais très content qu'il me pose la question comme ça. Il me dit quand même, bon, on n'a pas eu le temps finalement, parce qu'on s'est tellement occupé de préparer nos procès qu'on n'a pas eu le temps de discuter de l'homosexualité en milieu ouvrier. Mais enfin, il me dit cette chose qui m'avait quand même frappé. Il me dit, tu comprends, nous étions au chantier naval, on se salit beaucoup. Et tous les soirs, on prend la douche ensemble.
D'accord.
Et c'était un beau garçon qui avait un beau corps fin. Et il me dit, comprends, j'en ai marre que tous les soirs, mes collègues me foutent des tapes sur les fesses en me disant, bon Dieu, si seulement ma femme a vaincu comme le tien. Ça m'avait beaucoup frappé. Mais on en est resté là sur la discussion, quoi. Mais en tout cas,
c'est déjà pas mal.
Il se trouvait que le problème se posait sans interdit.
Oui.
Mais en tout cas, je vous dis, moi j'ai milité en milieu prolétarien de façon non clandestine. Enfin, je veux dire, j'avais pas à me cacher, on savait que je vivais avec Foucault et tout ça. C'était ma manière d'être militant. Pour en faire c'était efficace que ce soit une militance autonome, mais je n'ai pas participé.
Non, mais d'accord, mais par exemple, j'ai lu quelque part que vous avez collaboré à un numéro de recherche en 73, où il y avait un article intitulé 3 milliards de pervers.
Oui, non, c'est Foucault qui a participé.
Ah, c'est Foucault,
c'est Foucault qui a participé, oui, non.
Alors, j'ai pas lu cet article, sachez de quoi.
Écoutez, il est repris dans 10 et écrit,
oui.
Parce qu'on a repris tous les articles de Foucault.
Oui.
Je ne sais même pas si Foucault a participé au numéro de recherche.
Bon, j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas où.
Alors, je ne sais pas s'il y a un article de Foucault dans ce numéro. Non, Foucault a participé au procès. Il a été témoigné au procès qui a été fait. Parce que à l'époque il y avait une censure Et quand on était censuré, on était pendant un an interdit de publicité, des choses comme ça. Donc la revue Recherche était une revue dirigée par Guattari.
D'accord.
Et donc je crois que Foucault n'y a pas participé, mais il a été témoigné au procès qui a été fait contre ce numéro.
D'accord. Parce que le procès était contre le numéro, pas contre Guattari.
Non, le procès c'était l'interdiction du numéro.
D'accord.
Donc on contestait l'interdiction du numéro.
D'accord.
Et alors Foucault a fait des articles dans Combat, il a déposé en justice.
D'accord.
Je peux retrouver le numéro, je peux retrouver l'article de Foucault dans Combat, qui est dans 10 et écrit.
D'accord. Et pourtant, une autre chose que j'ai lu, c'est que la revue Guépier, c'est Foucault qui a trouvé le titre.
Oui,
c'est ça.
Oui, on était proche des gens qui ont créé Guépier.
Oui.
Alors Guépier, c'était d'ailleurs un jeu de mots.
Oui, qu'il faut que je vous explique c'est ça. Parce que pour un Anglais, c'est pas évident.
Alors, prendre son pied en français, c'est avoir du plaisir.
D'accord.
C'est jouir, même au sens strict, c'est jouir. Enfin, c'est avoir du plaisir.
D'accord.
Donc, le guépier, c'est le plaisir gay.
D'accord.
Mais le guépier, c'est un nid de guêpe.
D'accord.
Et pour Foucault, la notion de nid de guêpe à propos des gays était, je crois, aussi importante que le plaisir gay. C'est-à-dire qu'il avait dit, je crois qu'il avait dit une phrase que je me rappelle pas très bien. Il faudrait faire. Il faudrait faire sortir son plaisir du guépier.
Oui.
Enfin, espérons que ce sera un pied des gays et pas un nid de guêpe, enfin un truc comme ça.
D'accord.
Mais il avait joué sur l'alternative des deux sens.
D'accord.
Mais il avait refusé, justement, il avait refusé dans ce premier numéro de Guépier, qui était, les gens de Guépier s'étaient attendus à ce que Foucault dise « Ah, moi, je suis gay », tout ça. Or, il avait justement horreur de cette conception de l'obligation de décliner son identité.
Il
a toujours considéré que c'était une demande policière à laquelle les gays souscrivaient. Donc il a toujours dit qu'il fallait inventer ce que c'est qu'être gay, et pas déclarer qu'on l'était, parce que déclarer qu'on l'était, c'était répondre à une demande extérieure.
D'accord.
Et qu'il fallait constituer une existence gay, mais il fallait l'inventer. Donc l'idée d'appartenir à un mouvement de libération, ou de comme le phare, ou ça, c'était pas tout à fait cohérent avec les positions de Foucault. Donc, dans ce numéro de Guépier, il avait fait un article de biographie, déclare que, qui était un peu la demande que Guépier faisait, il avait fait un article sur le suicide, sur l'affirmation des psychiatres que les gays se suicidaient plus que les autres.
Parce qu'à ce moment-là, il était en train de sortir son livre sur la sexualité.
Oui, parce que ça doit être de 75, Guépier, non?
Je crois que c'est 79, non?
Ah bon, alors, ou 78...
L'histoire de la sexualité, c'est quel moment?
Alors, le premier volume, c'est 76.
Oui, oui.
Et après, c'est à sa mort.
Oui.
Mais il avait fait déjà La volonté de savoir. C'est peut-être 78, j'ai oublié que j'avais
on va peut-être
le fil à la patte.
On va le chercher plus tard.
Oui, d'accord.
Oui, parce que... est-ce qu'on peut... parler de votre engagement dans AIDS? Ça se dit AIDS?
AIDS. AIDS, parce que c'est le pluriel. C'est le pluriel de...
Oui.
C'est le pluriel de l'aide.
Oui.
Support.
D'accord.
Bon. Alors, d'abord, aide, c'est un jeu de mots.
Oui, encore un jeu de mots.
C'est un jeu
très
de mots.
Français.
Si on peut dire, faut dire que quand j'ai formaté le projet, j'étais en Angleterre.
Oui.
Et j'ai lu la littérature médicale à la British Library et je voyais AIDS partout.
Oui.
Si bien que je ne savais pas très bien comment me sortir de AIDS. Et j'ai l'idée de dire aide, de décaler le E, et de faire de l'idée c'était transformer une maladie en solidarité.
D'accord, non, je comprends.
Ouais. Donc le mais c'était en décalant le E, je faisais un clin d'œil à Foucault parce que Foucault m'avait dit un jour, je sais pas si c'était à l'origine ou s'il l'avait réfléchi après, que le GIP, puisque c'est lui qui avait proposé ce sigle GIP, que le GIP, c'était la gauche prolétarienne, GP, avec le iota de différence que devaient y introduire les intellectuels.
D'accord.
Donc, en faisant aide sur deux registres, j'ai fait un clin d'œil à GIP.
Ouais.
Parce que, d'une certaine manière, si vous voulez, mon éducation politique, c'était quand même le GIP.
Oui.
Dans la mesure où on avait quand même créé un mouvement qui avait eu des résultats, on l'avait créé toute pièce quand même, alors que la gauche prolétarienne, j'y avais été comme membre. Là, c'était quand même plus gratifiant, c'était une chose qu'on avait faite ensemble. Donc, je voulais continuer l'engagement avec Foucault. Donc, si vous voulez, aide, c'est à la fois une continuation de 68, et c'est vrai que je n'ai pas retrouvé grand-chose de 68. Parce que c'est vrai que les apprentissages de la libération sexuelle des années 70, c'est plus ça.
Oui.
C'est un tout autre mouvement qui se crée à ce moment-là. Donc je dirais que j'ai fait une référence au GIP. Mais bon, on avait fait un jour une conférence sur qu'est-ce qui était la postérité de 68, et c'était un Lazarus, qui est un médecin, qui a été un de ceux qui a beaucoup joué pour la mobilisation des médecins en 68.
Oui.
Les médecins qui sont venus sur les barricades, comme Jacob et Monod, c'est lui qui les a fait venir. Et il a fait venir beaucoup de médecins, l'engagement des médecins auprès des blessés, tout ça. La forte médiatisation de l'engagement de la faculté de médecine à côté des étudiants blessés la nuit des barricades. C'est Lazarus qui a été derrière ça. Et Lazarus, qui avait participé à la fondation de Aide, qui est professeur de médecine.
D'accord.
Et Lazarus avait fait un jour une réunion, mais ça c'est après, donc 87 ou 8, il avait fait une réunion à la fac de médecine sur la postérité de 68.
Oui.
Et son hypothèse, c'était que les médecins étaient une des rares professions qui était resté en continuité avec 68.
Ah bon?
En grande partie parce que Médecins du Monde a été créé en 70 par Bernard Kouchner, en rupture avec la Croix-Rouge. Puis Médecins sans frontières a été à nouveau, enfin c'est Médecins sans frontières plutôt, a été créé par Bernard Kouchner en 70. Et puis quand il a voulu s'occuper des boat people, la gauche de Médecins sans frontières s'est fâchée en disant mais les boat people c'est des bourgeois capitalistes, on peut pas aller secourir contre le communisme, il a dit si, devoir humanitaire, tout ça. Il a créé Médecins du Monde. Donc c'est les French Doctors, c'est quand même un des héritages de mai 68. Oui. Donc Lazarus m'avait fait venir à cette conférence pour qu'on voit, dans la mesure où Aide était aussi un prolongement du GIP, quelles étaient les traces de 68 dans les mouvements sociaux des années 80.
D'accord. Mais pour vous, Aide n'avait rien à voir avec la libération sexuelle.
Justement, je disais que j'avais rien appris des acquis du phare.
Non.
J'avais rien appris et je l'ai appris des États-Unis. C'est vrai que mon modèle, au départ, à la mort de Foucault, j'ai eu tout de suite l'idée de faire un mouvement sur le sida.
Pourquoi ?
Mais parce que je me disais que c'était une manière de continuer à être avec Foucault.
Oui.
C'était une sorte de militantisme à deux.
D'accord.
Parce que c'était une manière de deuil à deux. Il y avait quand même une grande ignorance en France sur le sida. Il y avait pas de politique publique. Donc, il me semblait qu'il y avait là des carences. On savait rien. Il n'y avait pas d'information, pas de politique. Je me disais que si c'était moi qui étais mort du sida, je pense que Foucault aurait fait quelque chose. Enfin bon. Donc l'idée c'était, on milite ensemble.
Oui.
Donc, en plus, bon, comme il n'avait pas vraiment su ce qu'il avait, il n'a pas fait de déclaration publique parce qu'il l'a su, il l'a compris. Les médecins ne l'ont jamais dit, mais il l'a compris vraiment à la veille de sa mort, quoi. Donc, ça, c'était gênant, d'une certaine manière. Ce silence... je voulais sortir un peu de ce dilemme.
Oui.
Le dilemme, c'était pas de déclarer qu'il était mort du sida, mais c'était de faire quelque chose, quoi. Un peu avec sa mémoire. Donc, sans forcément le désigner, mais enfin, bon... Donc voilà, enfin c'était pour moi une issue pour un silence qu'il n'y avait pas à garder, ni à transformer en déclaration. Il est mort du sida. Bon, et alors, c'est pas héroïque. Bon, il y avait à transformer ça. Donc c'était le problème de la transformation en, et le modèle était le GIP, c'est-à-dire mobiliser des gens qui sont pas des professionnels, qui vont produire de l'information.
D'accord.
Comme nous, on avait produit de l'information à partir de la vie des détenus, on avait produit de l'information sur la pénitentiaire, mais à partir de la vie des séropositifs, qui n'existaient pas à l'époque, on n'avait pas de test. Mais à partir de la vie des malades, bon, moi c'était un peu mon modèle, mes vieux concepts maoïstes, il faut marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire être dans le milieu gay, être dans le milieu médical, le œil du paysan voit juste quel est le paysan, c'est le malade, donc oui. Il faut que tout soit du point de vue du malade, bon, avec quelques réflexes acquis sur le terrain dans les années 70, on a créé un mouvement, les gens venaient soit parce qu'ils avaient été militants gays et qu'ils sentaient une responsabilité, soit au contraire parce que ils avaient jamais milité sur la question homosexuelle, soit ils étaient militants des droits de l'homme, soit ils avaient des copains, soit ils étaient séropos, on ne savait pas. Bon voilà, on a créé un mouvement à 15-20 personnes au départ.
D'accord. Mais c'était essentiellement, comme vous dites, un groupe d'information.
Oui.
Est-ce que c'était pour lutter contre certains préjugés ou
l'ignorance ou... Bien sûr, on avait toutes des objectifs nombreux, même financer la recherche. On n'a jamais pu parce qu'on a eu tellement de besoins sociaux et de besoins de prévention qu'on n'a jamais eu besoin de financer la recherche. Nous, on n'a jamais eu assez d'argent pour le faire. Alors que d'habitude, les mouvements sont plutôt au profit de la recherche. C'était aussi un des premiers mouvements au profit des malades.
Oui.
Et dirigé par des malades. Bon, moi, j'étais pas malade, mais je le savais pas. Enfin, j'ai fait mon premier test en même temps que je créais AIDE.
Oui.
Donc, mais les responsables de AIDE étaient des malades. Beaucoup le savaient.
Et vous dites que vous avez fait des recherches en Angleterre pour sur AIDS. Et vous avez connu le Terence Higgins Trust.
Oui.
Oui.
Oui, parce que d'abord je savais pas du tout qu'il y avait déjà des associations. Donc je suis parti tous les ans. Je passais mon été à Londres. Je faisais un échange d'appartement avec Julie Christie.
Oui. J'ai lu quelque part que c'est une copine à vous.
Oui, je suis
très jaloux.
Ah, tiens, j'ai une photo avec elle. Je suis attaché. Une jolie photo d'elle, là, pour ses 60 ans. Non, c'est une grande amie. C'est vraiment une femme formidable. Tellement belle et tellement éthique.
Oui.
C'est une femme formidable. Et alors, j'étais chez elle.
Oui.
À la mort de Foucault.
Oui.
Bon, elle était très amie avec Foucault aussi. Et j'étais chez elle, et dans le Time Out,
oui,
je trouve une publicité « Si le sida vous inquiète, téléphonez-nous ». Alors je téléphone, et moi je dis à un garçon téléphone, c'était un garçon du Terence Higgins Trust.
Oui.
Je lui dis, mon ami est mort du sida et je veux créer quelque chose et je voudrais savoir ce que vous faites.
C'est à quel moment ça?
Oh, ben c'est en août 84.
Tout de suite après?
Oui. Mmh. Oui, je suis parti quelques jours chez Hervé Guibert à l'île d'Elbe, et puis après, tout le mois d'août, je travaillais tous les ans au British Library. Au British Library, oui, tous les étés.
Ah bon? Vous n'avez pas la Bibliothèque Nationale?
Non, ben j'adore Londres. J'adore Londres. Donc j'ai passé. J'aimais beaucoup. C'était à la fois les vacances, la sortie. Bon, j'habite Paris, donc.
Oui.
Comme les Anglais, les Américains viennent à Paris, moi j'allais à Londres.
D'accord.
Donc j'avais tous mes mois d'août à British Library. En plus, j'étais très embarrassé. Bon, Foucault était mort dans une sorte de silence, de non-dit, de ratage. Et donc, j'étais très gêné d'aller acheter des livres sur le sida dans les librairies. Bon, je savais pas bien s'ils existaient. Au moins, à Londres, j'étais tranquille. J'ai lu toute la littérature que je pouvais. Mmh. Et c'est là que j'étais dans AIDS en permanence. Et donc, ce gentil garçon, qui avait le nom d'un grand anthropologue, George Leach, qui était infirmier et qui était volontaire au Terence Higgins Trust. Donc il me dit, ah ben écoute, ton ami est mort, alors ne te dérange pas, je vais venir te voir. Il vient me voir chez Julie, il m'explique un peu ce qu'il faisait. Oui. Et il allait partir à New York faire un stage au Gaiman Sales Crisis.
Oui.
Donc, j'apprends donc l'existence du Terence Higgins Trust, du Gaiman Sales Crisis, et qu'il faisait des permanences téléphoniques. Donc, je suis parti, à partir de là, j'ai commencé avec eux à faire des permanences téléphoniques. C'était dans un local assez moche, qui était donné par le Great London Council, mais qui était vraiment un local sordide. C'était l'époque de Madame Thatcher, mais le Great London Council était de gauche.
Ben, elle a essayé de le détruire.
Oui. Voilà. À l'époque, il n'était pas encore détruit, mais enfin, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, visiblement, parce qu'ils avaient un local assez moche. J'ai fait des permanences téléphoniques avec eux.
Ah bon? En anglais ou en français?
En anglais. Oui. Bon, je comprends assez bien l'anglais pour comprendre ce que les gens disaient et donc suivre et donc m'entraîner avec eux. Puis j'ai rencontré donc un peu tous les responsables fondateurs du Terence Higgins Trust, notamment un qu'on retrouve souvent à la télévision maintenant, qui est un peu spécialiste de la couronne, je sais plus. Ah, je ne sais plus son nom. Enfin, j'ai rencontré un peu tout. Donc, j'ai fréquenté pendant mon séjour à Londres un peu le Terence Higgins Trust, voir un peu toutes les. Donc, je suis revenu avec un projet très différent de celui que j'avais imaginé moi en juillet. En juillet, j'avais pensé faire un mouvement autour des droits des malades.
Oui.
Donc, j'avais contacté des avocats. Les avocats, je connaissais par le GIP,
voilà,
et par l'OPP, et par la gauche prolétarienne. Donc tous les avocats que j'avais fréquentés à l'époque, je leur ai envoyé une lettre. CACT UP a publié longtemps après, c'est marrant, qui était très sur la sexualité. Très militant homosexuel d'ailleurs. J'ai envoyé une lettre à tous les médecins, à quelques médecins du monde que j'avais connus, et puis à des avocats essentiellement, dont des avocats qui avaient participé au mouvement Choisir, du MLF, et pas de réponse.
Ah bon?
Pas de réponse. J'ai reçu une réponse d'un avocat qui était d'origine religieuse, c'était d'origine dominicaine. Et le seul qui m'ait répondu, longtemps après, les gens m'ont dit, on a du remords, on t'a pas écrit, l'autre m'a dit, on espérait que tu allais nous réécrire. Bon. Donc ça a été assez impressionnant. Mais je me rappelais la première réunion qu'on avait faite pour le GIP, où tous les professionnels n'avaient pas été une solution. La solution, ça avait été d'aller sur le terrain, de distribuer des questionnaires dans les files d'attente des prisons. Donc j'étais pas trop surpris. Et puis, il se trouve que j'avais lu dans Libération une lettre d'un garçon qui disait « Je viens d'apprendre que j'ai le sida et c'est insupportable de vivre avec cette information. »
Oui.
Or, moi, mon idée, c'était insupportable de vivre sans l'information.
D'accord.
De mourir sans savoir qu'on va mourir, tout ça. Je trouvais qu'il y avait un scandale à ne pas informer. Et puis, lui, il disait, c'est un scandale de le savoir. Ce qui me posait un énorme problème.
Parce qu'il faut qu'on est mort sans le savoir.
Oui. C'est ça que vous dites. Oui. Et moi, je trouvais qu'il aurait fallu qu'ils prennent des dispositions, tous les problèmes qu'on a eu d'édition, tout ça. J'aurais aimé mieux savoir ce qu'ils souhaitaient. Bon. Bon. Et ce garçon, qui était le neveu d'un prof de médecine, qui avait su très tôt ce qu'il avait, il disait que c'était insupportable. Il a fait une lettre anonyme, d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer en contact avec lui à travers Libération, pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon. Alors, quand je suis revenu de Londres, j'avais quand même un modèle de permanence téléphonique, service aux malades, j'avais quand même un modèle qui était le Terence Higgins Trust.
Oui.
Donc, alors c'est assez drôle parce que justement vous posiez la question du réseau. J'avais ce projet et je commence à réunir chez moi les représentants de la presse gay, disant, bon, il faut avoir quand même un appui dans le monde gay, dans la presse gay. Je connaissais, bon, les gens de Guépier, je connaissais l'autre revue qui était Masque, Foucault était proche d'eux, qui avait fait pas mal d'interviews chez eux. Donc, je fais venir les gens de, le responsable de Guépier, le responsable de Masque, en leur exposant, comment?
Jean Lebitou?
Alors, non, pas, Jean Lebitou n'était plus à ce moment-là. Ah, c'est ça, on est en 84,
ah,
et Jean Lebitou n'y était plus, non, c'était Franck Arnal.
Oui.
Qui était séropositif, mais qu'il ne savait pas à l'époque. Et Jean-Pierre Jocker, qui était séropositif et qu'il ne savait pas à l'époque, qui sont morts l'un et l'autre. Et je les fais venir chez moi, et je leur propose donc qu'on fasse un mouvement que je voulais déjà appeler AIDS, en expliquant ce que je vous ai dit. Et Guépier dit, c'est pas notre objectif. Nous sommes un journal qui fait rêver, notre lectorat est provincial, ce sont des gens qui vont pas en boîte, qui sont pas exposés au risque, c'est crétin, tous les gens qui sont en province vont se faire enculer à Paris ou dans les grandes villes, bon, c'est crétin, enfin, nous dit notre lectorat est provincial, on ne peut pas, tout ça, on le soutiendra, mais on ne peut pas. Il n'a même pas informé le journal de cette réunion. Je l'ai su longtemps après. Il était le représentant du journal, il n'a même pas informé autour de lui. D'accord. Et puis Jean-Pierre Jocker me dit, c'est très bien, je t'enverrai des gens. Il n'a jamais envoyé de gens. Donc je me retrouve un peu en carafe, comme ça, avec la presse gay.
Oui.
Qui n'envoie pas de gens pour... j'étais avec quelques copains, un qui était déjà très malade, un autre qui commençait à l'être, on était quelques copains. Et puis, il se trouve que Robert Gallo vient faire une conférence à Paris. Paris, qui était convaincu que Montagnier était un fake, n'avait pas vraiment découvert le virus, que c'était Gallo qui avait découvert le virus.
Oui.
Et que ce que Pasteur racontait, c'était du flan. Donc il y avait à Paris une espèce de grande animosité à l'égard de Montagnier. Et les gens, donc Gallo vient faire une conférence à Paris, et tous les médecins donc se précipitent à la conférence de Gallo. Et Libération... m'appelle en me disant, bah, tiens, on fait un papier sur Gallo, ou est-ce qu'on peut en faire un sur ton association, qui n'existait pas encore.
Oui.
Elle était en gestation. Alors, je suis obligé, pour que l'association existe, et une raison sociale, de déposer les statuts en catastrophe. Une réunion avec les 10 copains que j'avais à l'époque pour faire les statuts, tout ça, on dépose les statuts, donner une boîte à lettres, il n'y en avait pas, la poste n'en avait pas, donc je suis obligé de donner l'adresse de mon appartement. Et donc le lendemain, il y a un article sur Gallo et un article sur AIDS dans Libération, d'une association qui
était vraiment... quel moment ?
Ça doit être 1er octobre 84,
Oui.
20 octobre 84, enfin c'est à peu près ça.
Oui.
Donc il y a un article qui paraît dans Libération. Et le lendemain matin, j'ai 20 lettres dans ma boîte, dont certaines avec des chèques, Ah et bon? Voilà comment l'association est née. C'est-à-dire, ce sont des gens totalement individuellement. Pour ça que la notion de réseau, j'y suis résistant.
Oui, oui.
C'est des gens complètement individuellement qui sont venus d'eux-mêmes. Alors, certains me connaissaient des gens proches, mais d'autres pas du tout. D'autres absolument pas.
Et pour avoir des fonds, c'était surtout des
alors, il y a une femme.
Des individus ou des.
C'était des organismes. Il y avait une femme qui avait épousé, l'histoire était un peu obscure, elle avait épousé un garçon qui était en train de mourir du sida. Et donc elle se présentait comme la veuve. En fait, elle l'avait épousé pour pas lui payer ses dettes. Et elle a fait le tour des copains de ce garçon et elle est arrivée avec un paquet de chèques à la main. Mais on a commencé comme ça, vraiment des gens très individuellement ayant lu le journal.
D'accord.
Ayant lu un journal généraliste, Libération, pas Guépier.
D'accord.
M. Guépier n'a fait qu'après un papier.
Après quand même.
Ah, ils l'ont fait après. Mais ils auraient pu être les premiers. Ouais. Alors on a publié la brochure dans Guépier, la première brochure, on l'a publié dans Guépier. Mais ils n'ont pas été le fer de lance. Et ça a été bien d'ailleurs que ce ne soit pas le fer de lance, parce que la France a ses traditions. Les Anglais ont souvent reproché de n'avoir pas fait un mouvement homosexuel. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même une population immigrée importante, africaine, qui était déjà touchée. Les premiers malades dont on s'occupait étaient des Aérois. Il y avait beaucoup de toxicos déjà touchés. Oui. Et les garçons qui ont lu l'article sur AIDS l'ont lu en même temps que leurs camarades de travail.
D'accord.
Et ils m'ont dit, c'était bien qu'on lise l'article ensemble.
Oui.
Et un type m'a dit, j'ai pu parler de moi, mais si ça avait été dans Guépier, je n'aurais eu personne avec qui communiquer. Donc finalement, mais c'est le hasard qui a fait que les résistances sociales, tout ça, ont fait que les gens sont venus individuellement.
Et ça continue, AIDS.
Oui, oui, oui.
Avec combien de personnes qui travaillent
Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne suis pas vraiment les choses. Actuellement, le garçon qui est président est c'est un garçon qui est à la fois docteur en médecine, docteur et sciences, qui avait un grand avenir scientifique. Tout le monde disait ce sera le futur directeur de l'INSERM. Ouais. Mais il a fait un coming out de militant gay avec le sida et tout ça. Donc effectivement, il sait que ses chances d'être directeur de l'INSERM ne sont plus là. Donc il
Vraiment ?
Oui, 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 oui. Donc il a donné un accent résolument gay. Le dernier bulletin que j'ai reçu était franchement avec les gays africains, ce qui est aussi problématique en Afrique, quoi. Mais enfin, il dit, on a marre de parler des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, parlons des gays africains. C'est vrai qu'il y a des gays africains. Et ça commence à être un mouvement public.
Enfin, vous êtes en train de m'expliquer qu'en France, il n'est pas possible d'être un gay affiché et d'avoir une position publique importante, c'est ça?
Il y a le maire de Paris, si. Le maire de Paris, si. Mais je pense que ce garçon, depuis quelques années, moi je sais, ça m'a été dit, est-ce que lui avait l'ambition d'être directeur de l'INSERM, j'en sais rien. Mais il avait le profil. Le profil scientifique, en plus, il appartient à une famille de militants communistes très connus et il avait donc les ramifications sociales et intellectuelles pour. Mais je pense qu'il a fait le choix d'être un militant gay. En plus, sa santé est fragile maintenant. Il l'a rendu public et tout. Bon. Donc, je pense qu'il ne se donne pas un projet de carrière, il se donne un projet militant. Mais c'était quelqu'un qui... Donc l'association prend un accent, mais elle existe. Enfin, j'étais très surpris de voir qu'on a beaucoup de partenariats avec l'Afrique.
Oui.
On a fait le partenariat, on a créé une association en Pologne, en Russie, on a fait beaucoup d'actions à l'étranger aussi. Et j'ai vu que le bulletin était plein d'actions étrangères.
D'accord. Une dernière question qui demande une sorte de rétrospection. Quand vous regardez considérez votre parcours à travers 68, quels vont vos sentiments aujourd'hui sur ces années autour de 68 d'un point de vue personnel?
C'était formidable.
Oui.
C'est formidable. Enfin, j'ai jamais été des gens qui disent on s'est trompé ou c'était erroné. D'abord, ça a changé profondément la société. Ça, les relations d'autorité, les relations hommes-femmes, les relations parents-enfants ont complètement changé. Alors, il y a peut-être de la régression, mais actuellement, mais ça fait ça ne met pas en cause ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été formidable. Alors, moi, je me rappelle un jour dans mon université. On avait une réunion entre collègues les réformes de l'université étaient allées vers la libéralisation, le libéralisme, tout ça. Et mes collègues disent en quittant la réunion, nous sommes là pour maintenir l'esprit de 68. Bon, je reviens dans ma salle de classe et je dis à mes étudiants, en 68, vous aviez quel âge ? Et mes étudiants disent, ah, ne parlez pas de 68. C'est l'année où on n'a pas pu apprendre le piano. C'est l'année où nos parents n'étaient jamais à la maison. Mais ça a été épouvantable pour nous, ces années. Bon, alors j'ai dit très bien, notre tâche n'est pas de maintenir l'esprit de 68.
D'accord.
Bon, et donc je comprends que les choses aient changé beaucoup. Mais elles sont pas quand même revenues en arrière.
Non. Et vous avez dit à un moment qu'il y avait une sorte... de changement entre une révolution française traditionnelle en une révolution américaine ou anglo-saxonne.
Oui. Il y a eu ces deux mouvements qui se sont rencontrés, c'est vrai. Oui. Il y a eu, je vous disais quand même, il y a eu une révolution de velours pour pays capitaliste.
Oui.
Il y a eu une révolution de velours, ce serait le concept général qui unifierait le mouvement américain et le mouvement marxisan. Mais il y a eu une révolution de velours, c'est-à-dire qui n'est pas une vraie révolution, qui est une révolution dans un contexte politique limité, barré même, mais qui a été quand même au niveau des rapports d'autorité fondamentales. Et puis, il y a eu l'importation de modes de vie dont les modèles étaient réfléchis davantage par les Américains que par nous.
D'accord.
Moi, je vois... La sexualité, à la création de Vincennes en 69, qu'est-ce qui a fait que l'homosexualité a pu être acceptée ? C'est pas tant le militantisme homosexuel que les Black Panthers.
Ah oui ?
Les Black Panthers avaient fait des déclarations très très bien.
Oui.
Et comme les Black Panthers étaient héroïsés, qui avaient quand même une valorisation très forte de la violence en mai 68, et ça faisait quand même partie du registre post-68, la violence. Et les Black Panthers avaient à la fois, je ne sais plus comment il s'appelle, un des Black Panthers, pas qu'un Michael, celui qui est en Algérie. Il avait fait une déclaration ne traitons pas les gens de bagueurs, les homosexuels nous ont rien fait, traitons-les de Nixon. Et ça avait beaucoup marqué.
Ouais.
Et les militants politiques d'origine marxiste, tout ça avait bien entendu cela.
D'accord.
Le féminisme aussi. Je me rappelle Antoinette Fouque arrivant d'Angleterre un jour. Et c'était une amie où on avait fait nos études ensemble, Antoinette Fouque.
Ah oui.
Elle arrive, j'allais chercher Foucault à Orly. Pierre Berger allait chercher Saint-Laurent et arrive Antoinette Fouque en même temps du même avion. Et elle arrive et elle a dit, je rapporte d'Angleterre la révolution. C'était le féminisme.
Ah, voilà, formidable.
C'était le féminisme. Elle avait été aussi chercher le modèle ailleurs. Mmh. Et je crois que les grands mouvements identitaires, ils sont pas sortis de la tradition révolutionnaire. Ils sont sortis plutôt du modèle américain.
Oui.
Donc il y a eu une gauche américaine et Chevènement détestait tout ça. Et très tôt, il avait imposé cette étiquette de gauche américaine.
C'est lui qui a inventé le titre.
Ah oui, cette gauche américaine, c'est lui qui... Et le garçon qui a posé la question de ma sexualité au sein de la gauche prolétarienne, est devenu un des plus proches collaborateurs de ce événement.
Bon, on a très bien travaillé. Daniel Defer, je vous remercie infiniment.
Bon, mais je ne sais pas si ça fait...